Bonsoir à tous, et voilà pour une nouvelle émission de Parlons Patrimoine. Et on ne va pas commencer cette fois-ci par parler de nos sous, de vos placements. On va parler, mais d'une pépite quand même, pépite comme on aime adorer en bourse. Un nouveau restaurant à Lisbonne, délicieux, j'y suis allé. C'était très bon, on a été servi avec le sourire très vite. C'était très bien, c'était comme on aime, c'était du beau et du pas cher. Et j'ai demandé à la patronne Caroline de venir nous en parler. Alors Caroline, c'est à vous. Quel est ce restaurant? Comment s'appelle-t-il? Quelle est votre cuisine? Que faites-vous? Décrivez-nous un petit peu cette pépite que vous nous avez créée.
Bonjour Bernard, d'abord. Notre restaurant s'appelle Ban Sarevaj. Ban voulant dire maison en thaï. Donc maison Sarevaj, Ban Sarevaj. Le restaurant est situé entre le parc Eduardo VII et le Corte Inglés. Très facile pour vous parquer hein, dans la rue ou dans le Corte Inglés. Notre restaurant est un restaurant de cuisine thaïlandaise authentique. Parce que on a ramené deux chefs de Thaïlande qu'on est parti chercher à Bangkok. On les a profilés avec l'aide d'une consultante qui nous a ensuite présenté ses chefs. On a fait un peu comme Top Chef hein, à la télé ou Master Chef. On leur a demandé de travailler sur trois plats en travaillant à la fois le goût et le goût et le visuel. Et par la suite, on les a sélectionnés et ils sont venus nous rejoindre dans l'aventure. Et un troisième chef va arriver en décembre pour soutenir en fait la cuisine. Pourquoi? Parce qu'on propose des plats thaï, bien sûr les plus connus, tels que le curry vert, la salade de papaye fraîche, la soupe tom yum à base de citronnelle et de crevettes, le mango sticky rice, le riz gluant à la mangue, et bien sûr le pad thaï, l'un des plats les plus connus de Thaïlande.
Alors, juste attendez, quelques petites questions. Ces chefs, vous les avez fait venir et ils font ici une petite formation à une équipe sur place, ou vous les avez fait venir et c'est devenu des nouveaux immigrants, ils se sont installés au Portugal et ils travaillent avec vous et ils restent ici pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas.
L'idée, c'est qu'on les a fait venir en fait avec un visa de travail, donc ils vont rester avec nous le plus longtemps possible. Ça, c'est l'idée. Ils sont experts dans leur domaine parce que le head chef, le chef Songtam, est spécialiste de la cuisine centrale de Thaïlande, notamment le pad thaï. On a une deuxième chef spécialiste de la cuisine du Nord-Est, proche de la frontière du Laos. Donc, la cuisine centrale de Thaïlande est une cuisine plus douce, moins épicée que la cuisine du Nord, qui est un petit peu plus épicée et très, très punchy en termes de saveur.
D'accord. Alors, en termes de prix, on en est où?
J'ai pas compris, pardon?
En termes de prix, combien ça coûte de venir
Non.
déjeuner chez vous?
Donc, en moyenne, on a une moyenne de prix de 21 euros. Sont les plats allant de l'entrée à de 8 euros, allant jusqu'au plat le plus cher étant 35 euros, mais c'est une enfin 35 euros, c'est une entrecôte maturée, un poisson frais du jour.
D'accord.
Et puis on propose également pour faire découvrir aux gens, parce que notre idée, un menu déjeuner à 18,50 €, donc vous avez entrée, plat, dessert et un café ou une eau. Ça vous permet en fait de découvrir notre cuisine avant d'aller plus en détail dans la carte. Et on propose souvent des plats qui sont assez goûtus dans le sens où c'est des plats d'une région de la Thaïlande. Ici, on propose en fait une cuisine authentique exécutée par des chefs, mais on propose vraiment une cuisine savoureuse et on essaye de proposer des plats de différentes régions de Thaïlande.
D'accord. Et alors vous, votre histoire, comment vous êtes arrivée à la cuisine? Vous êtes cuisinière depuis toujours, depuis longtemps, depuis peu?
Non, je ne suis pas cuisinière de formation. Par contre, je peux inviter 10 et 12 personnes à la maison pour cuisiner sans problème. 200 personnes par jour ou 150, c'est un peu plus costaud. Donc, je vais laisser ça à des experts qui sont nos chefs, assistés d'assistants cuisine. Moi, je suis arrivée en fait à la cuisine parce que dans ma famille, On mange frais tous les jours. Tous les jours, on cuisine. Et dans la cuisine asiatique, vous avez énormément de verres, en fait, beaucoup de légumes. Et en fait, moi, je suis arrivée parce que, déjà par ma famille, tradition culinaire, ensuite, j'ai été élevée par une nourrice pendant 4-5 ans de ma vie quand j'étais jeune enfant, dont le premier métier était d'être cuisinière. Elle est de nationalité thaï et elle cuisine une cuisine du Nord. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu aussi ouvrir ce restaurant.
D'accord. Et le soir, l'ambiance est différente? L'ambiance est plus cosy, plus cosy? On a des plats un peu différents ou on est sur un restaurant équivalent et sur des choses équivalentes?
Oui, bien sûr, on a les plats classiques de Thaïlande, le pad thaï, le curry vert. Et là, ce qu'on propose, c'est on peut faire par exemple une salade de papaye avec ce qu'on appelle le pala, un poisson fermenté que les gens du nord-est de Thaïlande et du Laos mangent volontiers. On fait du lap, qui est vraiment un plat traditionnel qui apporte du bonheur, qu'on fait durant des réunions de famille ou des célébrations. Ça, c'est vraiment un plat qu'on mange avec beaucoup de bonheur et avec des légumes. Il y a beaucoup de fraîcheur, il y a de la feuille de kéfir, il y a la coriandre vietnamienne, etc., etc. Et on fait aussi, par exemple, le tigre qui pleure. Donc, c'est une entrecôte maturée avec une sauce au tamarin, un peu épicée. On peut bien sûr ne pas faire épicée. Pour la petite histoire, le tigre qui pleure, c'est en fait. Pourquoi? Parce que. Il y a un mythe disant que le tigre est venu manger un bœuf, mais il a laissé la carcasse, donc il s'est mis à pleurer. Ça, c'est le premier mythe. Le deuxième mythe, c'est que quand on grille en fait une entrecôte, on voit les lignes sur l'entrecôte et on dit que c'est les larmes du tigre qui pleurent. Voilà.
D'accord, mais c'est une jolie histoire. Eh ben, c'est là-dessus qu'on va conclure. On va redonner l'adresse, on va redonner le nom. Vous êtes sur Zen Chef, La Fourchette, on vous trouve sur Google.
Oui, vous nous trouvez sur Google, vous nous trouvez sur Zen Chef. Alors, sur Google, souvenez-vous juste que Ban veut dire maison, donc Ban Sarevash. Et le restaurant se trouve entre le parc Édouard Rousset et le quartier Inglès.
Allez,
Voilà.
on donne quand même l'adresse pour ceux qui ont une bonne mémoire ou un stylo à côté d'eux.
Alors, Roi Cantorezen, numéro 13, à Lisbonne. On vous attend avec plaisir. Kakunkra.
Super. Merci beaucoup, Caroline. Je reviendrai avec grande joie déjeuner ou dîner chez vous. Je vais faire découvrir ça à des amis. Et je vous souhaite bonne chance pour votre restaurant. À très bientôt, Caroline.
Au revoir.
Au revoir. C'est maintenant au tour de Bruno Zaraya de Ginger. Bruno, c'est à vous, vous m'entendez?
Bonjour Bernard.
Bonjour Bruno. Alors Bruno, les nouvelles sont-elles bonnes? L'arrivée de Trump, les marchés, l'espérance, comment vous voyez le futur? Sans parler trop de votre fonds de Ginger, mais allez, le futur des marchés actions, qu'est-ce qui nous attend?
Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, c'est une question à la fois très complexe, presque philosophique maintenant, quand on parle de tout ce que ça implique avec notamment M. Trump, mais aussi d'autres acteurs internationaux. Je crois que depuis maintenant 2018, donc ça fait quand même 6 ans, beaucoup d'acteurs, commentateurs ou économistes ou autres prédisent une récession, prédisent quand même des choses assez sombres. J'ai l'impression en fait qu'on a toujours envie de voir le verre à moitié plein. Je pense qu'on est dans une société où l'anxiété est beaucoup plus, entre guillemets, rémunératrice et attractive que le fait d'être serein. Malgré tout, je dirais qu'une fois de plus, le pire n'est pas certain, que ce n'est pas une surprise de voir M. Trump élu, que M. Trump a déjà dirigé les États-Unis, il a déjà mis en place des taxes, des barrières douanières, il y a déjà eu pas mal de tensions sur différents sujets, et ça n'a pas empêché les marchés européens et américains d'être prospères. Et dans un environnement plus volatile, je dirais plus anxiogène, de réaliser des performances économiques plus qu'honorables. Donc j'ai envie de dire qu'il y a des poches de vigilance à avoir. On le voit d'ailleurs en un week-end, M. Biden peut autoriser de nouveaux missiles à longue portée pour l'Ukraine. Donc il y a beaucoup de décisions qui sont prises très rapidement. Je crois qu'il faut rester serein face à tout ça. Je pense que plus que jamais avec M. Trump, il y a, je dirais, la devanture du magasin. Et puis, à l'envers du décor, ou peut-être que la diplomatie et les éléments de négociation sont beaucoup plus importants et détaillés qu'on ne le croit. Je crois qu'aujourd'hui, les entreprises internationales ont une résilience beaucoup plus importante. Et quand je dis international, j'intègre aussi l'Europe, puisque on a eu comme une vague importante suite à l'élection de M. Trump de vente d'actifs européens pour aller vers les actifs américains. Je pense qu'on est un peu comme dans les épiphénomènes qu'on avait connus après le Brexit, où quelques jours après, dans la panique, beaucoup de mouvements sont faits, et très, très rapidement, c'est-à-dire quelques semaines plus tard, on retrouve une forme de froideur, la poussière retombe, et on se met à nouveau à analyser, à prendre du recul, à réfléchir. Et face à tout ça, je crois qu'il faut rester, je ne dis pas optimiste, parce que l'optimisme vous empêche parfois la vigilance, il faut rester vigilant, serein, et s'accrocher à des repères qui sont importants et qui, semble-t-il, sont assez résistants aujourd'hui.
Alors, ce que vous dites, c'est bon, c'est clair, ça pose bien le débat. Je vais rebondir sur un petit point. Bon, c'est clair qu'on a vu un épiphénomène qui a pu être déclenché avec la dissolution de l'Assemblée nationale, où là, il y a eu une espèce de fuite des marchés européens en se disant l'Europe, c'est mort, on va aux États-Unis. Et je pense que dans quelques mois ou dans quelques années, quand on regardera un graphique, on verra bien ce pic et on verra bien cet épiphénomène. Mais si on regarde depuis 20 ans, on a quand même des bourses américaines qui marchent mieux. Je ne vais même pas parler de la bourse française, mais mieux que les bourses européennes sur les 20 dernières années. Donc, quand bien même on a assisté à un phénomène conjoncturel, je vais reprendre la question. Y a-t-il, selon vous, y a-t-il eu, puisque là on va parler du passé, donc ce que vous avez constaté, un phénomène aussi structurel qui fait que acheter une action américaine, enfin acheter l'Amérique en action, est quelque chose qui a été plus payant qu'acheter l'Europe en action? Et donc la
Alors,
question, ça, là on est sur du constat, donc on va vite être d'accord. Et la question, c'est, comme ce qu'on essaie de convaincre nos clients, c'est que devrait-il faire ou que pourrait-il faire dans les mois ou dans les années à venir? Est-ce qu'on va aller sur cette continuité, si tant est que ce soit une continuité, ou est-ce que vous voyez un point de rupture structurelle et pas un point de retour conjoncturel?
il y a plusieurs questions, je vais essayer d'y répondre. En plus, vous me connaissez, moi je suis assez bavard, donc s'il y a beaucoup de questions, c'est vite compliqué pour moi, mais je vais essayer d'y répondre. Je dirais que d'abord, il y a une, vous avez raison de souligner un point qui est le point de basculement par rapport à la dissolution et la crainte au niveau France, politique et économique. Ce n'est pas forcément vrai au niveau européen, parce que par exemple, il y a 16 points d'écart entre le DAX en Allemagne et le CAC depuis le début d'année, et c'est vrai sur beaucoup de pays européens. Donc en fait, la défiance, elle est vraiment sur la France. Par rapport aux comparaisons avec les États-Unis, c'est vrai que si on regarde froidement depuis 20 ans, il était plus intéressant d'investir aux États-Unis qu'en Europe. Ça n'a pas été tout le temps vrai sur les 20 ans, mais sur 20 ans glissants, si on regarde comme ça froidement, c'est à peu près vrai. Je dis à peu près parce que, par exemple, depuis 5 ans, le Dow Jones, qui est un indice équipondéré, et c'est important parce que ce n'est pas le cas du S&P 500 et le Nasdaq encore moins, mais le Dow Jones est équipondéré, et le Dow Jones sur 5 ans fait les mêmes performances que l'Europe. Donc vous voyez, c'est assez comparable et ce n'est pas si évident que ça. Si maintenant on regarde à plus long terme, évidemment, le marché américain, par exemple, entre 2002 et 2007, était assez comparable, voire plus performant que le marché européen. En revanche, entre 2007 et 2011, le marché européen est bien plus performant que le marché américain. Donc, en fait, il y a des cycles comme ça, et on connaît un cycle aujourd'hui américain qui est très fort, qui est porté par ce qu'on appelle les sept magnifiques, qui, à tour de rôle, prennent le relais et ont des poids extrêmement importants dans les indices, y compris même dans le Dow Jones, puisque Nvidia ou autres sont rentrés dans ces indices-là. Et donc, ont été portés par des actifs que nous n'avons pas en Europe, ou en tout cas, que nous n'avons pas su exploiter. Et c'est là la grande frustration. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde froidement les choses, en 2000, il n'y avait pas Apple et il y avait Nokia. Et Nokia a quasiment disparu. En 2000, il n'y avait pas Netflix, mais il y avait Vivendi, qui déjà en amont voulait mettre tout ça. Donc en fait, on a perdu beaucoup de parts de marché et beaucoup d'attractivité sur des actifs que nous avions la chance d'avoir entre nos mains il y a encore 20 ans. Je crois qu'aujourd'hui, et parlons de demain pour vos clients, pour vos auditeurs et auditrices, et c'est important, vous avez raison de le souligner. Je crois qu'aujourd'hui, il faut regarder une chose, c'est le prix. C'est important quand même, parce qu'on parle de dynamique, on parle d'intérêt, et ça me rappelle un peu Quand on parlait du luxe en Europe, où tout le monde disait il faut du luxe, il faut du luxe, il faut du luxe, et bien sûr que ces boîtes étaient exceptionnelles dans leur croissance, dans leur ADN, dans leur dynamique, mais le prix en face était très élevé. Et je crois que quand on est un investisseur, il faut regarder l'environnement qu'il y a autour de nous, et il faut aussi regarder les caractéristiques de l'entreprise et son prix. Aujourd'hui, le marché américain au sens large, je prends le Dow Jones, ça se paye environ 23 à 24 fois les bénéfices. Le marché européen et notamment le marché français se payent entre 13 et 14 fois. Donc en fait, il y a un écart de valorisation, donc de prix, qui a rarement été aussi important à la défaveur des Européens. Et là, je crois que par exemple en Europe, bien sûr que si on prend une petite entreprise qu'on appelle les small cap ou les mid cap espagnoles, anglaises, italiennes ou françaises, dont le marché est essentiellement un marché de proximité, voire un marché européen, peut-être que ces boîtes peuvent plus souffrir. Si vous prenez un Saint-Gobain, un Daimler ou autre, aujourd'hui, les chiffres d'affaires de ces structures sont principalement réalisés hors de l'Europe. Ce sont des boîtes internationales. Demain, par exemple, comme Total l'a menacé il n'y a pas longtemps, Daimler pourrait dire, j'arrête d'être coté en Allemagne, je me cote à New York, et c'est fini. Tout d'un coup, c'est une boîte américaine, et vous verrez que le rattrapage sera important.
Alors, t'as justement, c'est une question, ça.
Oui.
Si Total allait se coter aux États-Unis, puisque c'est Total qui a lancé le pavé dans la mare en disant on va aller
Exact.
se coter aux États-Unis, et j'ai envie de dire, comment je peux les comprendre? Parce que maintenant, Trump est tellement pro-hydrocarbures, et nous ici, voilà, on a tellement que, enfin, je veux dire, il n'y a plus personne qui veut que son fils aille travailler dans le pétrole. Hein. Ça, c'est fini. Il y a une cinquantaine d'années, c'était
C'est
peut-être un secteur d'avenir, mais aujourd'hui, c'est ingénieur hydrocarbure, il y a peu de parents qui vont encourager les enfants à faire ça. Est-ce que ce serait techniquement une bonne chose? Est-ce qu'on verrait ce Total prendre soudainement 10, 15% ou 20%? Ou est-ce que non, c'est plutôt politique ou c'était plutôt une manière pour Total de dire au gouvernement, arrêtez parce que nous aussi, on pourrait se cabrer et s'énerver?
Non, ça n'est pas que politique. En fait, bien sûr qu'il y a un aspect politique, un aspect social et fiscal qui est important par rapport à l'État français, par rapport à tout ce qui implique. Et on voit déjà quand on bouge quelque chose en France comment ça se passe. Donc, ça serait assez terrible en termes de dynamique sociale et sociétale. En revanche, au niveau financier, Total coté demain à New York, par exemple, vous retrouvez aussi une dynamique d'investisseurs. C'est un petit peu moins vrai sur la partie institutionnelle parce que des instituts américains peuvent acheter Total en France, c'est pas un sujet. En revanche, pour toute la dynamique de clientèle, je dirais, de gestion privée particulière qui, par exemple, est celle dont on parle, là, oui, bien sûr, les gens auraient beaucoup plus de facilité à acheter Total, mais c'est vrai aussi pour Repsol en Espagne, c'est vrai pour Eni en Italie. C'est pas un hasard si toutes les pétrolières européennes ont tant de retard en termes de valorisation par rapport aux pétrolières américaines ou d'autres pays. Donc, il est clair que ça pourrait créer une dynamique. Après, il y a un aspect social, un aspect politique qui est très important. Mais c'est vrai qu'avec toutes les contraintes qu'on a en France liées à l'ESG, l'ISR ou autre, aujourd'hui, les gens ont plutôt tendance à dire il faut sortir Total, il faut sortir Eni ou Repsol des portefeuilles que l'acheter. Et c'est vrai que c'est un vrai débat parce qu'il vaut mieux, je pense, accompagner ces structures vers un monde meilleur. Ça veut dire prendre un pacte avec eux pour dire voilà, on est en 2024, il faut qu'en 2030, on ait atteint tel niveau d'émissions carbone en moins. Donc, accompagner le management plutôt que de dire on vous sort des portefeuilles, parce que sinon, les valorisations sont telles que ça peut même être des cibles pour des boîtes américaines. Une pétrolière européenne aujourd'hui peut être une cible pour une boîte américaine au regard des décalages de valorisation.
Ok, alors on s'est un petit peu envolé, on est parti un petit peu à côté de Ginger. Donc si on revient à Ginger maintenant, donc Ginger c'est un fonds européen, c'est un fonds flexible avec une notion un petit peu différente de la flexibilité. C'est-à-dire un fonds flexible, ça ne veut pas dire j'ai une partie en obligation et une partie en action. De ce que vous nous avez expliqué, votre flexibilité, elle est plutôt sur le pourcentage d'actions. Et. Donc aujourd'hui, on en est où dans cette flexibilité? Quel est le pourcentage d'actions qu'il y a dans le fonds? Donc là, je vais vous poser les questions une par une.
D'accord. On est à 76% d'exposition au marché
Alors,
exposé.
76%. Les années auparavant où vous êtes venu, bon, vous étiez peu enclin à acheter des obligations. Bon, d'abord parce que vous aviez plus confiance dans le marché actions, puisqu'il y a des années où vous êtes venu, vous étiez à 100. Ou quasiment à 100, et peut-être aussi parce que les obligations n'offraient pas les conditions qu'elles offrent aujourd'hui. Les 24 autres pourcents, vous les avez en obligations ou vous les avez majoritairement en cash, donc produits en obligations soit ultra courtes, soit carrément en produits monétaires.
On les a en obligation d'État avec des durations, donc des durées assez courtes. On était à zéro de duration en 2022, donc on n'avait vraiment aucune. Enfin, c'était très, très, très court, le plus court possible pour nous. Et on est aujourd'hui autour de 2, 2,2, donc on est plus qu'en 2022. Et on a profité quelque part de la hausse des emprunts, notamment sur la partie État, Italie, Espagne, pour avoir du cash un peu boosté. Nous, le gros de la performance, comme vous l'avez compris, pour nous attirer, c'est sur la partie action. Donc nous, c'est vrai qu'on est un fonds diversifié qui peut être flexible, donc qui peut être exposé de 0 à 100% en action. Donc on a jusqu'à maintenant utilisé l'ensemble des palettes d'exposition de 0 à 100%. Maintenant, c'est vrai que, et vous avez raison de le souligner, nous ne sommes pas tactiques. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas toujours dire on va acheter au plus bas, vendre au plus haut en fonction des événements de marché. Parce que les événements de marché sont très compliqués à la fois à appréhender, mais surtout génèrent beaucoup de fausses pistes. Si vous prenez le lendemain du Brexit, le lendemain d'élection de M. Trump, les différentes craintes sur les bancaires ou autres, on pourrait tout le temps vendre, acheter, vendre, acheter, vendre et plus faire de performance. On a fait ce choix de l'action, et vous l'avez souligné versus le choix obligataire, où les performances sur la partie corporate en Europe ont été assez honorables aussi, pour des questions à la fois de couple rendement-risque. C'est-à-dire qu'en fait, le raisonnement, il est assez simple. C'est-à-dire que si vous pensez qu'on peut acheter, par exemple, une obligation Saint-Gobain il y a 3 ans parce que les taux sont attractifs et parce qu'on a du coupon, nous, on se disait OK, mais l'action Saint-Gobain est plus intéressante et plus attractive et plus liquide surtout. Nous, la liquidité est un enjeu majeur. Donc, on a préféré acheter l'action Saint-Gobain, mais c'est vrai qu'on a des performances qui sont… Les performances obligataires sont très bonnes. Nos performances sur 3 ans sont aussi très bonnes. Et
Alors, attendez,
aujourd'hui…
on va les prendre là. Depuis le début de l'année, on a quoi comme performance du fonds?
On détourne de 3% depuis le début d'année.
3% depuis le début de l'année. Donc, ça, c'est quand même un peu décevant.
Bah, disons que c'est décevant par rapport à la période. Si on vient de connaître 15 jours extrêmement utiles, il y a 15 jours, on était à 6 et dans 15 jours, on peut être à 7. Donc, si vous voulez, je crois que ce qui est important, bien sûr que par rapport… Enfin, le CAC est à moins 5, mais cela, ou moins 3, cela étant,
Et le restock, il a.
l'Eurostock, c'est ce que j'expliquais, l'Eurostock doit être autour de 5, de 4, 4,5, je dirais aujourd'hui maintenant. Donc, on est un peu en dessous de l'Eurostock. Je crois que nous, ce qui nous importe, c'est un, le potentiel. On a une liste de 28 titres sur lesquels les potentiels sont extrêmement importants et sont encore plus importants aujourd'hui qu'il y a 15 jours ou 3 semaines. Et ça, ce qui est important pour des clients qui souhaitent investir, c'est de regarder les valeurs qui composent un portefeuille et de voir est-ce que ces valeurs sont plutôt plus haut du marché, ce qui est forcément un peu inquiétant, ou est-ce qu'on a des potentiels importants par rapport soit au plus haut, soit même au cours des entreprises actuelles par rapport aux cibles que l'on peut avoir. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a beaucoup de potentiel sur nos titres et on est très vigilant sur la partie obligataire parce que pour faire un retour à votre question de départ, il y a une chose, je pense, dont tout le monde peut être sûr avec l'élection de M. Trump, c'est que les taux vont pas beaucoup baisser, voire ils vont probablement pas mal monter parce que l'élection de M. Trump, c'est égal au moins à une chose, à un vrai retour de l'inflation. Quand vous augmentez le protectionnisme, quand vous augmentez l'ensemble des mesures qu'il veut prendre, ça veut dire un renchérissement du coût de construction, de fabrication de beaucoup de choses. Et ça, pour nous, ça doit aussi impacter un peu le monde obligataire, tout en étant assez favorable au monde action.
Alors, on ne va pas trop discuter là-dessus parce que c'est l'édito de tout à l'heure.
Ah, pardon.
Donc, on va rester calme sur ce sujet, mais on va y revenir tout à l'heure. Et donc, le résultat sur 3 ans du fonds?
Le fonds, 3 ans, fait une performance annualisée de l'ordre de 7% par an. On est autour de 15, entre 16 et 18%. Comme ça bouge beaucoup en ce moment, mais en tout cas autour de 6-7% annualisé.
D'accord. Et vos objectifs sur ce fonds?
L'objectif, il est double. Sur un fonds diversifié, où vous êtes potentiellement investi de 0 à 100% en actions, on essaye, et notre souhait, c'est d'apporter le meilleur des actions et ou des obligations pour des clients. En fait, c'est une brique de fonds de portefeuille qui va essayer sur 5 ans de vous donner la meilleure performance des deux mondes entre la partie obligataire et la partie action.
Et maintenant, le fonds, il existe depuis combien de temps, Bruno?
Le fonds, va avoir 13 ans dans quelques jours.
Et si on revient à la genèse, alors je ne sais pas si les chiffres, vous les avez en tête, parce qu'on n'a pas préparé l'émission sur ces chiffres,
Non, mais vous
mais
inquiétez pas.
depuis la création du fonds, votre taux annualisé, il est de combien?
Depuis la création du fonds, je dirais qu'on est entre 5 et 5,5% après frais.
Voilà.
Pardon.
Alors là, j'ai deux questions. Donc, je vais vous donner les deux. Est-ce que vous avez eu des années négatives? Ça, c'est important pour les clients, parce qu'il y a beaucoup de clients
Bien sûr.
qui acceptent d'avoir une rentabilité qui n'est pas celle des actions, mais qui exècrent d'avoir du rouge dans leur portefeuille et comme ils disent, de perdre de l'argent, même si cet argent n'est perdu que
Bien
temporairement.
sûr.
Donc sur ces 13 ans, on a eu combien d'années négatives?
Deux années. On a
Deux
eu
années négatives.
2020 et 2018.
D'accord. Donc, alors 2018, c'était une année de forte baisse et 2020, c'était l'année compliquée du Covid où il fallait comprendre ce qui allait se passer, ce qui n'était pas aussi évident
Oui.
que ça. Qui, en fin de compte, était une bonne année, mais avec quand même des allers-retours extrêmement forts. Et alors, vos deux performances négatives, elles étaient de l'ordre de combien?
Elle était en 2020 à moins 4% et de mémoire, on était à moins 8, moins 8,5 en 2000. En... Non, excusez-moi. On était à... Excusez-moi, hein, je suis désolé, je veux pas dire votre erreur. On était en 2020 à moins 3 et 4, moins 3, moins 4%. En 2018, on était à moins 8 ou moins 9%. En
D'accord.
2018, de mémoire, si vous vous rappelez bien, d'ailleurs, c'est sous M. Trump. M. Trump a un discours assez atypique vis-à-vis de la Fed le 28 décembre. Le marché américain perd énormément en 2 jours, le marché européen aussi, sauf que le marché américain est ouvert le 31, ce qui n'était pas le cas ce jour-là. Et du coup, nous, on récupère début 2019. C'est la difficulté, en fait, de l'année calendaire, c'est que la photo est au 31 décembre et que nous, on gère par rapport aux opportunités et pas par rapport à la date du 31 décembre, ce qui est une erreur marketing, mais ce qui est bien pour le client sur la durée, je pense.
On est bien obligé de prendre une photo à un moment ou à un autre.
Absolument. Mais il faudrait prendre plusieurs photos dans ces cas-là.
D'accord. Et on termine là-dessus. Donc on est quand même sur un fonds. Donc avec un rendement annuel vraiment de fonds flexibles, hein, j'ai presque envie de dire un rendement annuel d'obligations qu'on pourrait avoir avec des obligations, surtout si vous avez raison et que les taux ne baissent pas et que donc on va
Oui.
avoir du taux. On a peu de mauvaises surprises, puisqu'on en a une, elle est un petit peu sévère, l'autre, elle est beaucoup moins sévère. Et surtout, si je me rappelle bien, dès janvier 2021, le fonds, il avait remonté
Tout à fait. Tout à fait.
pour effacer la baisse de 2020. Donc en vérité, sur ces 13 ans, on a une baisse qui est importante. Hein, moins 8, c'est quelque chose d'important. Et quand on fait moins 8, il faut souvent un an, ou peut-être même plus que d'un an, pour revenir au bon niveau. Et donc
Alors, c'est pas
maintenant,
une question.
juste un.
Non, je m'excuse, mais je vous interromps, je suis désolé, c'est pas poli. Mais juste une chose, en fait, vous avez raison. Ce qui est important pour un client, c'est vrai pour Ginger comme pour tout le monde, hein, plus que de regarder la baisse, c'est de regarder le délai pour retrouver ses plus hauts. Combien de temps je mets pour récupérer l'argent que j'ai perdu? Et c'est vrai que de ce point de vue-là, nous, on a ce qu'on appelle des délais de recouvrement, de recovery qui sont assez faibles. Parce que justement, on essaye d'éviter à nos clients le risque dit systémique. Et sur l'épidermique, les moins 5, moins 8, moins 9, on a beaucoup plus de mal à prévenir nos clients, mais on le fait sur la partie systémique. Donc en fait, si vous voulez, ce qui est important, bien sûr qu'il y a les photos, et je comprends, je faisais une blague tout à l'heure, et c'est important, mais c'est important vraiment de voir cette partie recouvrement pour les clients.
Allez, donc on va conclure. Donc, le fonds, il est européen par nature, mais aujourd'hui, vous nous dites que donc le passé est souvent riche d'enseignements. Oui, c'est vrai que dans les 20 dernières années, l'Amérique a beaucoup monté, mais à l'intérieur de ces 20 dernières années, il y a eu des cycles où l'Europe a plus monté que l'Amérique, même si à la fin, c'est l'Amérique qui gagne la course. Là, on est dans un cycle depuis 2-3 ans où l'Amérique a plus monté que l'Europe. Attention, enfin, de votre point de vue, on pourrait avoir un contre-cycle, donc où sur 1, 2, 3 ans, l'Europe viendrait à faire une partie du rattrapage, même si cela ne viendrait pas changer la ligne long terme qui pourrait toujours avoir une Amérique qui croît plus vite et plus fort que l'Europe. Donc,
Fait.
ce côté européen reste pour vous un atout et vous pensez qu'il y a encore beaucoup de croissance. J'ai bien résumé, il nous reste 30 secondes, Bruno.
Alors, vous avez très bien résumé, et c'est important parce que les boîtes européennes sont mondiales. Et donc, en fait, si vous voulez, on doit analyser ça au niveau global, et ça, c'est important.
OK. Super. Merci, Bruno. C'est maintenant l'heure
Merci à vous.
de mon édito. Bruno, vous restez avec nous. Vous
Oui.
allez réagir sur l'édito et vous allez voir qu'il y a des thèmes croisés avec ceux que je vous ai un petit peu empêchés
Avec
d'évoquer.
plaisir. Merci beaucoup, Bernard.
Que nous réserve l'imprévisible président Trump? Trump a promis de faire mille et une choses. Comme tous les hommes politiques, il tiendra certaines promesses et probablement pas la majorité d'entre elles. Nous n'allons pas faire une analyse globale, mais juste essayer d'anticiper comment ces actions pourraient influencer les marchés et en amont de cela, nos allocations d'actifs qui ne sont que le reflet de nos points de vue sur le futur. Tout d'abord, Trump ne fera pas de cadeau à personne. Et ses choix ne vont pas aller dans le sens du profit des autres, à au moins peut-être une exception. Les Européens vont devoir revoir leurs dépenses militaires à la hausse dans toutes les hypothèses. Et une partie de cette hausse bénéficiera à l'industrie de la défense au sens le plus large. Les valeurs comme Airbus, Safran, Thales pourraient en profiter, mais surtout le secteur au sens très très large. Je n'ai pas trouvé de fonds liés au secteur de la défense européen du fait des critères ESG. La finance, comme les autres industries, préfère éviter les ennuis que de se les attirer. Il existe en revanche trois indices et en conséquence des ETF. Mais là non plus, il n'y a pas fou. Les performances sur ces 12 derniers mois sont très bonnes, pardon, et cela devrait continuer. Ces ETF sont mondiaux et pas européens. Il va augmenter les droits de douane et dans un premier temps, cela fera monter les profits de l'industrie américaine et par voie de ricochet, les marchés US devraient en profiter. Comme on ne sait pas ce qu'il fera exactement, c'est compliqué de réfléchir à un second temps. Cela devrait maintenir une bonne dynamique de l'emploi et si en même temps il tient ses promesses sur la limitation de l'immigration, une tension sur l'emploi et les salaires pourrait apparaître, ce qui mettrait fin au cycle de baisse des taux. C'est ce scénario que nous privilégions. Une économie dynamique avec des taux qui restent assez proches de ceux d'aujourd'hui. En revanche, si l'économie va bien, les taux longs pourraient se détendre. Cela dépendra beaucoup du déficit budgétaire, s'il monte ou reste stable. Les taux longs ne baisseront pas, de notre point de vue. La partie des obligations me semble plus difficile à jouer que les marchés actions. C'est pour ça que nous resterons très présents sur les marchés actions américains et irons chercher notre bonheur sur les obligations d'autres pays. À part le fait que Trump souhaite un dollar bas, je ne vois pas de raison pour qu'il baisse. Il apparaît donc inutile de couvrir ces fonds actions pour le moment. Les augmentations de droits de douane Chine-Europe, la pression sur les Européens pour augmenter les budgets militaires ne va pas aider et d'autres mesures protectionnistes ne vont pas aider l'Europe et la Chine. En tout cas, dans un premier temps, là aussi. Le monde émergent hors Chine pourrait tirer son épingle du jeu, surtout si Donald Trump arrive à trouver un arrangement avec Poutine et je pense qu'il va y arriver. Je pense que ça a même commencé. Et que cette autorisation d'utiliser les armes américaines profondément sur le sol russe, c'est le début de la négociation. Une partie de l'accord sera une levée forte ou totale des sanctions, ce qui fera baisser le prix des matières premières. Mais attention, beaucoup de matières premières sont vendues moins cher que le prix officiel aux pays émergents. Donc cela ne changera pas grand-chose sur les prix à la production de ces pays. On pourrait dire encore mille choses sans se tromper. Ou mille choses en se trompant, mais nos positions sont les suivantes. Sur les actions US et monde émergent hors Chine, sur les obligations émergent et l'Europe, émergent hors Chine aussi. Il y a bien sûr beaucoup d'autres secteurs, mais les liens avec la politique seront moins directs pour la partie qui nous intéresse. Voilà, c'était un peu dense, c'était un peu compliqué. On a Cyriaque Dayan qui nous a rejoint de Senso et on va le laisser réagir tout de suite, mais prenez un point. Et réagissez sur un point, et ensuite on demandera aux autres invités de choisir un autre point pour réagir sur ce point avant qu'on échange nos points de vue. C'est à vous, Cyriaque.
Merci. Bah, écoutez, oui, je pense, moi, en tout cas, le sujet qui m'interpelle le plus, c'est l'impact que peut avoir Donald Trump sur l'économie américaine avant de s'intéresser au reste du monde, voir dans quelle mesure, finalement, ce qui est annoncé est dans une dynamique positive ou pas, parce que c'est un peu ça la question qu'on peut se poser. C'est-à-dire que Donald Trump, finalement, arrive dans une économie américaine qui, on peut le tourner dans tous les sens, va pas si mal, va même plutôt bien. On a encore eu récemment les PMI qui ont été publiés aux États-Unis avec un PMI de 54,1 sur le composite, donc qui mélange le service et le manufacturier. Alors l'économie américaine a des faiblesses, hein, en particulier sur le manufacturier, on le sait, comme la plupart des pays développés d'ailleurs. Néanmoins, elle est quand même extrêmement robuste et c'est un très bel animal, j'ai envie de dire, cette économie américaine. Et c'est vrai que Trump, en arrivant avec des grandes annonces, risque enfin, en tout cas, il y a un risque peut-être de casser cette dynamique-là. Et c'est peut-être là le point qui est un petit peu étonnant dans le programme de Trump, c'est que finalement, autant sur l'aspect inflationniste, on l'a bien en tête avec l'aspect immigration qui est quand même très important, plus l'aspect taxe douanière, autant sur l'aspect économique, finalement, je ne suis pas certain que ce qui est annoncé soit aussi positif pour l'économie américaine. À moyen terme. Et donc voilà, moi je trouve que sur le positionnement action américaine, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que c'est là où il faut être pour une raison simple, c'est que c'est là où on a la croissance à la fois en termes de croissance économique et d'activité des entreprises. Néanmoins, je mettrais un petit bémol, ou en tout cas un petit questionnement sur un scénario un peu adverse sur cette économie américaine qui pourrait à trop surchauffer, avoir une problématique de croissance à horizon 2025. Et d'ailleurs, on voit bien que la Fed aujourd'hui, elle est un petit peu entre deux feux. Elle avait une politique qui était quand même beaucoup plus agressive en termes de baisse de taux. Et là, il y a un repricing complètement impressionnant qui a lieu depuis l'arrivée de Trump. Et donc voilà, le risque inflationniste combiné à une croissance qui ne suivra pas de mon point de vue, on n'aura pas une croissance de 5 ou 6% aux États-Unis dans les prochaines années, bah, il va falloir le suivre. Mais à la fin, encore une fois, je pense que l'économie américaine restera le moteur de la croissance mondiale, mais avec un risque, voilà, sur lequel je pense qu'il faut garder en tête que 2025 sera peut-être pas un long fleuve tranquille en termes d'activité.
D'accord. Déjà, si ça peut commencer par la tranquillité, ça sera pas mal. Alors, on va passer à Maëlle. Et bonsoir Maëlle. Alors, Maëlle, pour vous, j'ai une question. Ce matin, je lisais Marc Fiorentino et il parlait de dérégulation. Et il disait une des choses où les gens ne font pas assez attention, c'est que Trump a promis la dérégulation. Il a embauché pour ça Elon Musk. Et ce qu'il disait, Elon Musk, c'est pas quelqu'un qu'on arrête. C'est-à-dire que il va faire maintenant ce pourquoi il est là. Peut-être qu'on l'arrêtera et qu'on le mettra dehors de l'équipe présidentielle dans un an ou dans 18 mois. Mais il va pas hésiter et il va déréguler. Et là, il allait très loin, Fiorentino, en disant, on va avoir un vrai laboratoire test, un petit peu comme en Argentine. Mais cette fois-ci, avec la première économie du monde, avec une économie qui était extrêmement régulée, avec beaucoup de règles, avec beaucoup de choses comme ça. Et on ne sait pas jusqu'où il va aller, mais ce qu'il disait, et là je suis assez d'accord, et c'est là-dessus qu'on va vous entendre, il disait que de toute façon, la dérégulation, elle va dans un premier temps amener du profit. Elle amènera peut-être des ennuis, mais les ennuis, ils viendront dans un second temps et ils viendront après le profit. Comme en bourse et que sur les marchés financiers, les profits, on les regarde tous les 3 mois et on les ausculte vraiment de manière trimestrielle. Tout ça, voilà, c'est ma question. Sur ce côté dérégulation, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez les choses?
Bonsoir. Bah, j'ai vu que sa première intervention, c'était de dire, suite à sa nomination, c'était de dire les fonctionnaires américains, quand ils dépensent l'argent public, soit ils font gagner de l'argent à l'État, et à ce moment-là, ils ont un bonus, donc, comme un commercial, soit ils dépensent de façon peu intelligente, peu rentable, l'argent du contribuable, et à ce moment-là, je les vire. Donc ça résume bien un peu la façon dont il va appréhender les choses. Alors, je pense que ça peut être, franchement, enfin, j'essaye de pas ramener ça à la France, hein, de réfléchir américain, mais je pense que ça peut amener du bon, parce que c'est sûr que de l'argent public gaspillé, il y en a partout. Donc, si d'une certaine façon, il réglemente, il déréglemente, il contrôle de façon plus intelligente les dépenses qui sont effectuées, ça peut être plutôt positif. Après, il a un objectif de diminution de 20 milliards de dépenses par an. 20 milliards, c'est colossal. Donc, il va tirer dans tout l'État, enfin, dans tous les sens. Et du coup, forcément, le risque, c'est qu'il fasse un peu n'importe quoi pour réaliser des économies. Et je pense que c'est dans un deuxième temps, il va déréglementer certaines choses. Par exemple, sur les marchés financiers, il veut déréglementer. Je lisais que les bonus des banquiers privés, par exemple, des banquiers d'affaires à Londres, ils sont en train de mettre une réglementation. Aux États-Unis, l'objectif, c'est de complètement déréglementer. Du coup, vous pouvez faire n'importe quoi pour gagner. Autant que vous voulez. Je ne sais pas si c'est forcément plutôt une bonne chose côté marché financier, mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il va leur donner les coups des franges pour aller chercher un maximum de rentabilité, produire le plus possible. Et du coup, c'est vrai qu'avec moins de contrôle, bah, on a vu ce que ça avait donné les dernières années aux États-Unis. On a eu plein d'exemples, hein, les exemples Madoff, etc. Je ne suis pas persuadé que ça, dans le long terme, on découvre pas des, on ressort pas des cadavres. Dans les placards, dans les années post-Trump. Mais en tout cas, dans un premier temps et à court terme, c'est sûr que, comme disait un ancien ministre, dégraisser le mammouth en déréglementant, ça ne peut pas faire de mal.
Oui, ben celui-là, il n'a pas duré longtemps.
Oui.
Le mammouth, il est resté gras et d'ailleurs, et le ministre, ben, il a pris des vacances vite fait, bien fait. Alors, on vient avec vous maintenant, Bruno, et on va reprendre donc le sujet que vous alliez démarrer, sur lequel je vous ai arrêté. Donc, les taux. Donc, ce que vous nous dites, enfin, ce que vous alliez dire, c'est que la politique de Trump va être positive pour les marchés. Il ne va pas y avoir de baisse de taux, ou en tout cas, le rythme de baisse de taux qui était envisagé avant n'est plus du tout d'actualité. Et on pourrait donc avoir quelque chose comme une économie qui tourne plutôt bien avec des taux hauts, ou alors une économie qui tourne plutôt bien, mais du fait des taux hauts, commence à moins bien tourner. Enfin, voilà, développez maintenant, et là, allez-y, et développez vraiment cette histoire d'effets négatifs sur les taux.
Merci beaucoup Bernard. Déjà, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit en fait. C'est assez incroyable parce que je pense que quand on écoute Monsieur Dayan, Monsieur Toledano, même vous, on se rend bien compte que on a quand même pas mal de dialectique qui peut être anxiogène, ce qui rappelle un peu votre introduction. Parce que c'est vrai, quand on dérégule, quand on dit que tout le monde fait un peu n'importe quoi, ce qui peut être vrai, ça crée de l'angoisse. Je pense que il faut aussi comprendre d'où on part. C'est-à-dire que Monsieur Biden, de l'avis unanime de beaucoup d'acteurs économiques, a été un grand président sur l'aspect économique. Je pense qu'il paye, lui ou sa administration, une inflation qui n'était pas dépendante de lui et qui a beaucoup impacté les Américains. Mais à l'aspect économique, les Américains se sont enrichis. On le voit quand ils viennent en Europe ou en France, hein, je veux dire, il y a un écart colossal entre le prix des actifs chez eux et chez nous. Et je crois que c'est important de prendre ça en considération. Monsieur Trump va arriver avec des attentes qui vont être énormes. Il y a un degré d'exigence et d'attente par rapport à ce qu'ils ont connu après sa mort qui est énorme. Et je crois que dans un premier temps, il n'est pas impossible qu'ils se mettent à faire un peu d'hélicoptère monnaie pour satisfaire un peu tout le monde et pour essayer d'apporter un petit peu de beurre dans les pierres de tout le monde. Et ça va générer bien sûr un peu de croissance, artificielle peut-être, mais de la croissance. Ça va générer une forme de dynamique économique. Mais plus que ça, et là c'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Tous les éléments qu'il met en exergue sont des éléments qui ont des caractères protectionnistes, un peu de repli sur soi. Les Américains peuvent le faire, enfin, ils ne sont pas seuls au monde, ils ont quand même besoin aussi des autres. Et je pense que ces mécaniques-là, elles ont forcément des impacts qui sont inflationnistes et qui, en tout cas, devraient impacter notamment soit de façon équivalente, soit à la hausse, les taux durablement. Je pense que vous avez raison de souligner. Typiquement, je donne un exemple de M. Trump. Il vous dit, on va revenir au schiste bitumineux, on va essayer de forer partout où on peut forer, mais tous ces actes-là ne sont rentables qu'à un prix du baril assez élevé. Faire du schiste bitumineux sur un prix du baril inférieur à 70 $ n'a pas un grand sens. Donc, si demain, vous réglez d'un côté le conflit en Ukraine qui fait baisser de nouveau le prix du gaz, qui est déjà assez bas cela étant, mais baisser le prix du pétrole, pareil au Moyen-Orient, bah, tout d'un coup, il y a pas mal de ces mesures qui ne sont plus efficaces, en tout cas plus rentables. Et je crois qu'aujourd'hui, bon nombre de ces mesures en termes de dérégulation, en termes d'approche économique, en termes de barrières douanières, en termes de taxes ou autres, vont forcément générer un peu plus d'inflation, pas forcément moins de croissance globale. Vous savez, je disais un article il n'y a pas longtemps, on m'expliquait que quasiment tout le monde passait par le Mexique pour aller aux États-Unis. Et puis, si demain, il y a des taxes, ben les Mercedes ou autres iront construire une usine aux États-Unis. Donc, il y aura une dynamique qui peut s'installer, avec des coûts, à mon avis, plus élevés, donc des taux qui vont être amenés à rester durablement plus élevés.
Ok, alors, Syriac, et le dollar, comment vous voyez évoluer le dollar avec tout ça? Donc, tout ce dont on parle, c'est plutôt positif pour le dollar, mais on a un Trump qui dit, je veux un dollar bas.
Oui, alors c'est le change obéit pas à Donald Trump, ne lui en déplaise. J'ai bien aimé votre petit commentaire. À part des élucubrations, pour l'instant, concrètement, le change, ça se décrète pas, le niveau de change, à moins de rentrer dans vraiment des politiques interventionnistes, mais on changerait d'univers. Bah, moi, je considère que sur le dollar, enfin, à un moment donné, les États-Unis sont une économie puissante, la plus puissante au monde, la dynamique est favorable à l'économie américaine. Je vais prendre un exemple, hein, mais qui quand même est assez extraordinaire. Vous prenez un MSCI World début d'année, les États-Unis, en tout cas l'Amérique du Nord, représente 73%. À l'instant T, l'Amérique du Nord, c'est 76,5%. En même pas 12 mois, les actions américaines ont grappillé, j'ai envie de dire, 3,5 sur le reste du monde dans une construction d'un basket action. C'est assez extraordinaire ce qui se passe. Il y a des gains de productivité très élevés aux États-Unis, beaucoup plus qu'en zone euro ou même dans certains pays ou dans la plupart des pays émergents. Et donc, quand vous êtes une économie forte avec des taux élevés, et là, je rejoins ce qui était dit, bah, la probabilité d'avoir des taux qui baissent fortement me paraît assez faible au moins dans les 6 prochains mois aux États-Unis. Bah, globalement, le différentiel de taux, il est favorable aux actions, il est favorable au dollar. Je pense notamment à l'euro, hein. D'un côté, on a la zone euro où on voit que la BCE, aujourd'hui, en tout cas, de la part des investisseurs, il y a une anticipation de 5 baisses de taux jusqu'à juin 2025. Du côté de la Fed, on n'est qu'à 2 baisses de taux et le taux actuel est quand même déjà favorable au dollar. Donc globalement, je vois pas bien moi ce qui peut être défavorable au dollar à court terme ou au moyen terme, on va dire. Le seul élément que je constate et sur lequel qui me mettrait mettre un petit bémol à cette analyse favorable dollar, c'est la question du positionnement. C'est-à-dire que ce que je dis est quand même assez consensuel aujourd'hui, mais le carry trade, donc ce différentiel de taux favorable au dollar, il va persister. Et donc je pense que Donald Trump, alors déjà il faut se rappeler qu'entre 2016 et 2020, il y a eu un jour il voulait un dollar haussier et puis le lendemain il voulait un dollar baissier. Donc il était quand même susceptible de changer assez rapidement d'avis. Mais très concrètement, la seule possibilité pour moi qu'il a de faire baisser le dollar, ça serait d'appuyer sur la Fed pour faire baisser les taux de manière drastique. Et on voit bien que M. Powell, en tout cas pour l'instant, ne semble pas vouloir répondre à cette demande-là. Donc concrètement, le dollar, pour moi, va continuer à s'apprécier. Alors pas au même rythme, on va pas prendre 3 ou 4 figures tous les mois, mais un retour à parité contre l'euro me paraît tout à fait envisageable sur les 12 prochains mois.
Les deux prochains. Powell, il reste à la Fed jusqu'en 2026, c'est ça? Son mandat, c'est jusqu'en 2026.
Tout à fait.
Voilà. Donc, bon, comme c'est un peu un champion des nominations, après 2026, on peut penser qu'il va nommer.
Ah, c'est certain que si Powell refera pas le mandat, hein, c'est même interdit. Mais le fait est que je pense qu'il va, voilà, il va falloir qu'il trouve quelqu'un de. Enfin, après Donald Trump, comme souvent, a des grandes idées. Et puis après, dans les faits, bah, c'est lui qui a nommé Powell. Hein, il faut le rappeler. Donc voilà. Et après, un autre élément, faut pas non plus surestimer le rôle de la présidence de la Fed. Alors nous, on est très focus parce que quand il parle, etc. Mais dans les membres votants, le président de la Fed n'a pas plus de poids, à part dans le discours, qu'un membre basique. Donc, je suis, enfin, la question de l'indépendance de la Fed, pour moi, sera pas remise en cause parce que ça sera pas possible. Par contre, il y a plus de pression. Ça, c'est clairement un sujet qui, à mon avis, va être un sujet des prochaines années.
C'est souvent ça d'ailleurs avec l'Amérique. L'Amérique, elle est tellement organisée avec des contre-pouvoirs et avec son organisation interne extrêmement vigilante des pouvoirs que même quand il y en a un qui hurle et même quand il y en a un qui pense affirmer qu'il a le pouvoir et qu'il va décider, à l'échelon en bas, quand il va le falloir faire, de toute façon, c'est toujours compliqué, c'est toujours des négociations et il va toujours falloir lâcher du lest pour arriver à trouver une majorité. C'est quand même une construction démocratique différente de la nôtre, non?
Oui, tout à fait. On a coutume de dire que les États-Unis sont la plus belle démocratie en termes de structure parce que bah c'est elle a été créée finalement avec un petit peu de décalage et puis avec une vraie vision très intéressante. Enfin là, par exemple, la Chambre des représentants, le Sénat, si on rentre un peu dans ce débat-là, on voit que par exemple du côté du Sénat, le leader du Sénat qui a finalement été choisi est pas un pro-Trump, en tout cas c'est pas un extrémiste Trump comme d'autres. C'est quelqu'un de plus équilibré qui est plus dans l'axe de l'ancien responsable du Sénat, enfin directeur du président du Sénat. Et donc, il y a des contre-pouvoirs dans tous les sens. Aux États-Unis, c'est d'ailleurs ce qui gêne un peu Trump, hein, c'est que dans sa politique aujourd'hui, il y a vraiment cette volonté de s'attaquer à ce qu'il a appelé le Deep State. Et puis l'expérience 2016-2020 lui a montré que c'était pas parce qu'il discutait quelque chose que ça se mettait en place aussi facilement et rapidement. Donc il y a aussi un effet d'apprentissage là-dessus de la part de Donald Trump pour avoir un impact beaucoup plus rapide. Néanmoins, voilà, on n'est pas dans un modèle à la France, à la forme du type française, avec un président de la République qui, même si aujourd'hui c'est plus vraiment le cas, mais qui habituellement en tout cas était vraiment très puissant. Aux États-Unis, le président américain, sans un Sénat ou une Chambre des représentants en sa faveur, les deux, il faut que ça soit dans le même sens, il pourra pas faire grand-chose. Là, pour le coup, c'est le cas de Donald Trump aujourd'hui, mais je rappellerai, voilà, que la Chambre des représentants, il n'y a pas beaucoup d'avance en faveur des républicains, que le Sénat, c'est, on voit que, voilà, il y a déjà des discussions, c'est quand même un équilibre de pouvoir qui fonctionne, mais si on veut être quand même, pour le coup, objectif vis-à-vis de la politique de Donald Trump. C'est rare d'avoir un président qui a vraiment les pouvoirs alliés, ce qui est un peu son cas, mais je considère en
Et
tout
ça
cas,
va durer
de
que
mon point de
deux
vue,
ans, hein, de toute façon.
ça dure tout à fait
Enfin.
2 ans. Dans 2 ans, il y a la Chambre des représentants qui peuvent de nouveau repasser du côté démocrate. Et puis, il y a aussi, enfin, même s'il en a nommé beaucoup, hein, il y a quand même comment s'appelle, la Cour de justice,
La Cour
la Cour
suprême.
suprême, voilà, je perdais, aujourd'hui, les républicains, enfin, les soi-disant républicains, parce qu'il n'y a pas officiellement de positionnement, sont majoritaires. Et là aussi, voilà, il y a des contre-pouvoirs. Moi, je pense que, bah, Donald Trump va mettre en place un certain nombre de choses sur lesquelles il s'est engagé et sur lesquelles il y a un consensus. Enfin, je veux dire, par exemple, par rapport à la Chine, aujourd'hui, il y a vraiment un consensus aux États-Unis, que vous soyez démocrate ou républicain. Par rapport à l'immigration, bah, on peut voir que ce qui s'est passé dans la politique, dans le positionnement des démocrates a quand même beaucoup évolué. Et il y avait un positionnement assez dur finalement à la fin de la campagne. Et donc il y a quelques éléments qui vont être de ce type-là et qui vont être assez, qui vont être mis en place. Pour le reste, il y aura, enfin voilà, je pense que Donald Trump fera ce qu'il peut faire dans le cadre de ce qui sera possible avec les équilibres de pouvoir aux États-Unis qui restent, de mon point de vue, réels.
OK. Alors, on va aborder le dernier point. Le dernier point, c'est les marchés émergents hors Chine. Bruno, vous avez un point de vue là-dessus? Donc, la question, c'est avec cette augmentation de taxes qu'il va y avoir sur la Chine, parce que ça, c'est une certitude, c'est la technique Trump. Il va augmenter les taxes d'une manière brutale et ce sera le point de départ de la discussion. C'est exactement la même chose de mon point de vue que Biden, qui dit maintenant, les missiles longue portée, vous pouvez tirer profondément en Russie, mais. Ça s'est fait quelques jours après que l'Allemagne a repris contact avec Poutine pour discuter et que Trump a dit on va discuter. Donc c'est des points de départ. Mais ce point de départ d'augmenter les taxes tout de suite pour la Chine, il va le faire sans hésiter, et pour l'Europe, sans hésiter, il va le faire tout de suite aussi. Ça peut les marchés émergents hors Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, les choses comme ça. Comme ils sont petits, comme ils sont moins visibles, enfin l'Inde, ce n'est pas vraiment petit, mais moins visible, pourraient passer à travers les mailles du filet. Et est-ce qu'on a une petite opportunité sur ces marchés, même si ce n'est pas votre spécialité, Bruno?
Alors, merci pour votre question. Vous avez raison, c'est pas la spécialité du tout. En revanche, peut-être donner deux éléments, peut-être trois d'ailleurs sur ce sujet-là. Le premier, c'est que dans notre outil de risque, puisqu'on a un outil international incluant la Chine, l'Inde, d'autres pays, le risque chinois ou indien ne monte pas particulièrement. Donc de 0 à 5, on reste proche de 0, ce qui pour l'instant signifie que le risque en Chine reste assez limité, en tout cas en termes de marché financier. La seconde chose, c'est que on a déjà connu ça, c'est-à-dire que M. Trump revient au pouvoir, donc il a déjà eu plusieurs de pouvoir, il y a déjà eu les taxes en Chine, en Europe, et ça n'a pas empêché ces marchés d'être performants, voire très performants pour l'Europe. Et la troisième chose, c'est que je crois que, vous savez, ce qui était surprenant ces dernières semaines, c'est que les gens étaient surpris par l'élection de M. Trump. Si vous regardez les sondages depuis maintenant 6-7 mois, le marché baissait quand Mme Harris repassait devant, et le marché montait quand M. Trump repassait devant. Donc on avait bien compris que M. Trump était plus pro-marché, et au regard de la taxe et des impôts, c'était bien ce qui était discriminant, mais ce qui est important, c'est que tout ce qui est aujourd'hui en place est intégré dans les marchés depuis un petit moment. Si les valeurs automobiles européennes souffrent autant depuis quelques mois, c'est parce que justement étaient intégrées ces nouvelles taxes. Si la Chine, alors la Chine, il y a d'autres sujets parce qu'ils ont le problème immobilier, ils ont le problème de croissance ou autre, mais aujourd'hui, les valorisations en Chine sont très très faibles. Est-ce que moi, je reverrai dessus demain? Je pourrais difficilement vous donner la réponse parce que ça me paraît plus difficile que d'acheter de l'Europe avec moins de visibilité. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que tout ce qui se passe et tout ce qui est décidé était plus ou moins dans les cours au regard. Enfin, Monsieur Trump, pour le coup, on ne découvre pas son programme aujourd'hui. Ça fait 6-7 mois qu'il l'assène quasiment tous les jours. Donc, en fait, si vous voulez, son élection, qui est ni une surprise ni pas une surprise, mais en tout cas qui est réelle aujourd'hui, n'est pas une surprise pour les pays émergents et pour notamment la Chine. Et je pense que la surprise pourrait être d'avoir des échanges peut-être plus diplomates, ou en tout cas plus sur la diplomatie. Il y aura probablement facialement ce que vous dites, hein. On sait que c'est quelqu'un qui est violent dans l'approche et dans ses propos, mais je pense que la partie diplomatie derrière et la partie envers du magasin peut être intéressante pour ces pays, parce que de toute façon, M. Trump, il a aussi intérêt à ce que la Chine n'aille pas trop mal.
Ok. Maël, je vous laisse reprendre à votre compte ce qu'a dit Bruno ou un petit peu changer si vous avez une autre opinion. Peut-être un mot sur l'or qui a une bonne dynamique depuis pas mal de temps. Est-ce que l'élection de Trump devrait conforter cette dynamique, l'arrêter. Bon, alors c'est souvent un excellent anxiolytique, on peut travailler là-dessus. Voilà. Donc je vous laisse conclure sur mon édito et ensuite, Cyria, vous enchaînez directement avec votre point marché dès que Maëlle a fini.
Par plusieurs points. Moi, je trouve que le marché automobile, alors ils avaient anticipé les problèmes d'importation aux États-Unis, mais je trouve aussi qu'on souffrait beaucoup du modèle économique voiture électrique chinois. On a fait la même chose que ce que Trump avait fait au final. On a mis des taxes aux importations. Donc, on n'arrête pas de le critiquer, ce Donald Trump. Alors, je ne suis pas un grand défenseur de Donald Trump, mais on n'arrête pas de le critiquer. Au final, on fait souvent la même chose que lui a posteriori. On réindustrialise comme lui. Donc, je suis curieux de voir ce qu'il va pouvoir inventer, parce que je suis persuadé qu'on va copier plein de choses. Ce que je disais tout à l'heure sur Elon Musk, qui va un peu retravailler en profondeur le secteur public américain, alors il va y avoir de la casse, hein, certainement, et on ne pourra jamais faire la même chose en France ou en Europe, mais je suis quand même curieux de voir ce qu'il va faire, parce que je suis sûr qu'on va pouvoir s'inspirer de lui. Moi, j'aime les gens de conviction, alors j'aime pas l'homme, mais j'aime les gens de conviction, il est plein de convictions, donc je suis curieux de voir quelles convictions il va pouvoir appliquer à l'économie. Et pour répondre à votre question, pour aller un peu plus loin aussi, c'est vrai que cette mesure de protectionnisme, ça va nous obliger, nous, Européens, à nous réveiller. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, hein, parce qu'on légifère dans tous les sens, pour revenir à votre question du départ, on légifère dans tous les sens et on se tire des balles dans le pied. Il veut délégiférer, simplifier un peu les marchés, simplifier un peu le mode de gouvernance. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on aille aussi loin que ce qu'il va certainement appliquer. Néanmoins, je trouve que c'est un peu l'inconvénient européen, c'est qu'on rajoute des réglementations européennes sur des réglementations nationales. Il va falloir qu'on apprenne à travailler tous ensemble, parce que tous ensemble, on est plus puissants que les Américains, on est plus nombreux. Ça va pas dans le bon sens, hein. Regardez l'actualité récente sur le Mercosur. Les Français, on est les seuls à pas être d'accord avec les autres, à juste titre, certes, mais on n'est pas d'accord avec les autres. Donc ça commence pas bien. Donc je suis curieux de voir également comment ça va évoluer. Et enfin, pour répondre à votre question sur l'or. Je pense qu'il y a deux investissements, si je peux appeler ça alternatifs, qui vont vivre de bons moments. C'est l'or et les monnaies alternatives, donc les bitcoins. Le bitcoin, il bat tous les records. Je ne suis pas un grand fan du bitcoin parce que j'y comprends rien. Hein. Malgré toutes les émissions qu'on a fait ensemble, j'arrive toujours pas à comprendre les fondamentaux de cette devise. En attendant, ça cartonne. Et moi, en tant qu'assureur luxembourgeois, j'ai des demandes 4-5 fois par jour depuis 10 jours pour investir dans le bitcoin. Alors que l'or, on ne peut pas mettre de métaux précieux, mais on peut mettre des trackers métaux précieux. J'ai beaucoup moins de demandes récemment parce que je pense qu'on est déjà très haut. Ça va continuer à monter, mais pas beaucoup plus. Contrairement à ce que pensent apparemment les gérants, c'est qu'ils croient beaucoup plus dans le Bitcoin et les autres monnaies alternatives.
Dans les contrats luxembourgeois, on a le droit d'acheter des trackers Bitcoin qui ont été émis dans les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Alors, donc, déjà, puisque chez vous, c'est toujours par trois secteurs. Donc, est-ce que vous avez une offre ou une proposition d'un tracker ou d'un fonds qui fait une espèce d'indiciel sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies ou les crypto-actifs à l'intérieur de l'offre Wellins? Et est-ce que dans les feeds ou les faces qu'il y a chez vous, donc là c'est pas vous qui gérez, vous êtes juste le support, est-ce que légalement par rapport à la législation luxembourgeoise, ces feeds ou ces faces peuvent utiliser les trackers sur les crypto-monnaies ou enfin le tracker sur le Bitcoin, parce qu'il n'y a pas encore de tracker crypto-actif multi.
Alors, c'est intéressant comme question parce que jusqu'à présent, on n'avait pas le droit. Depuis quelques temps, on a un peu desserré l'étau en autorisant finalement des investissements qui suivaient l'évolution des devises, mais pas qui investissaient directement dans les devises. Et vraisemblablement, vous savez qu'il y a une nouvelle circulaire qui définit l'univers d'investissement qui va être publiée vraisemblablement fin de cette année, début d'année prochaine. Et je pense qu'ils vont également réfléchir à ça parce qu'aujourd'hui, on a tellement de demandes qu'on ne peut pas se permettre, ça devient une vraie source d'investissement, hein, un vrai axe d'investissement, les monnaies alternatives. Et donc, vraisemblablement, ça va pouvoir être autorisé demain dans les contrats. Aujourd'hui, en tout cas, c'est directement dans les ETF ou dans les devises, c'est pas.
ETF Bitcoin dans les contrats luxembourgeois aujourd'hui, c'est non.
C'est
Quand
non.
bien même ce serait à travers un feed ou un face.
Oui, c'est non. Aujourd'hui, on n'a pas le droit.
D'accord. Eh bien, c'est sur ce non qu'on va laisser la parole à Cyriaque Dayan pour son point marché. Allez, Cyriaque, c'est à vous.
Merci Bernard. On peut commencer quand même le point marché pour donner une petite statistique que je trouve particulièrement intéressante. Si vous regardez la performance du S&P 500 depuis le début de l'année en date de vendredi dernier, cette performance, elle est de l'ordre de 25% et c'est la troisième meilleure performance sur cette séquence-là sur les 25 dernières années. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez exceptionnel. Alors on est un petit peu habitué, j'ai envie de dire, par l'exceptionnel entre 2021, 2022, 2023. Bah, finalement, quand on regarde les ordres de grandeur, on a des variations qui sont assez extrêmes sur le S&P 500, mais il ne faut pas l'oublier qu'il y a vraiment aujourd'hui une dynamique qui est très favorable aux actions américaines et qui se cumule avec déjà une année 2023 assez exceptionnelle. Et l'idée de ce point marché, c'est de réfléchir à ce qui se passe aux États-Unis, voir si ça, la tendance peut se poursuivre et élargir ça, bien sûr, aux différentes zones géographiques comme j'aime le faire. Alors, je vais déjà commencer juste par un petit point que je trouve assez intéressant sur la croissance et l'aspect activité. C'est qu'il y a beaucoup de réflexions, d'analyses, beaucoup d'intelligence mis sur ce sujet-là. Mais si finalement vous regardez la croissance mondiale depuis les 3 dernières années, que ce soit en 23, 24 et puis la projection 25, on est aux alentours de 3%, 3,3, 3,1. 2025, on serait aussi à 3,1. Donc beaucoup de réflexions, d'analyses pour finalement nous arriver sur une sorte de plateau depuis plusieurs années au niveau de la croissance mondiale, avec des équilibres qui peuvent varier en fonction des zones géographiques, mais qui finalement sont relativement stables. Et dans ce contexte-là, ceux qui s'en sortent le mieux, bah, c'est comme souvent les actions américaines qui gagnent à la fin, un peu l'équivalent des Allemands à la fin du siècle dernier au niveau du football. On peut noter que sur l'analyse sur les économies américaines, j'en ai déjà parlé, donc on va pas refaire sur le débat Trump. Je pense que le point important, c'est quand même qu'on a un changement de paradigme au niveau de la Fed. C'est-à-dire que en septembre, on a eu une baisse de taux de 50 BP, hein, ce qui était non négligeable, avec des prévisions qui étaient extrêmement optimistes. L'arrivée de Donald Trump et une économie qui, hors Donald Trump, s'est avérée beaucoup plus robuste que ce que pouvait penser, espérer ou craindre, en fonction des points de vue, les économistes, stratégistes et gérants, finalement ne justifie pas une agressivité aussi forte sur les baisses de taux. Et donc aujourd'hui, on nous annonce peut-être une baisse de taux en décembre, et cumulé décembre plus le premier semestre, on serait qu'à deux baisses de taux du côté de la Fed. Donc clairement, aujourd'hui, bah, finalement, l'activité étant assez robuste et l'inflation, et ça, il faut le dire, et même avant l'arrivée de Trump, une inflation aux États-Unis qui ne se normalise pas autant que ça. On est sur une inflation core, donc hors énergie alimentaire, qui est à 3,3, ben justement, ne permet pas de justifier des fortes baisses de taux. La seule explication qui serait à cette baisse de taux, ça serait une croissance qui ralentit fortement, mais c'est pas forcément ce qu'on souhaite tous autour de cette table. Donc du côté des États-Unis, des actions très solides avec des très bons résultats. Encore une fois, on est à 8 ou 9% de croissance des bénéfices. Des taux 10 ans qui ont repris quasiment 100 BP. Je trouve, pour ma part, qu'à 4,50, on retrouve des niveaux qui me semblent relativement attractifs sur les taux américains dans une perspective moyen-long terme. Si on sort un peu de l'économie américaine et qu'on va du côté de la zone euro, le paysage est malheureusement, et comme souvent, beaucoup moins favorable. Rappelons-nous que d'abord, il y a beaucoup d'incertitudes sur comment Donald Trump va appliquer sa politique vis-à-vis de l'Europe, mais j'ai envie de dire, ça sera pas joli, joli, classé clairement. Il y a une volonté aujourd'hui il y aura pas d'amis, comme tu l'as dit, Bernard, en introduction, avec Donald Trump. Il y a pas de, on l'a vu en 2016-2020, ça sera la même chose. Et donc, il y aura un sujet à ce niveau-là. Et malheureusement, cette problématique-là, elle s'ajoute aussi à un vrai questionnement sur l'activité en zone euro, où systématiquement, finalement, elle est revue à la baisse. Pour l'année prochaine, on nous annonce 2025, donc 1,2. 2024, on sera à 0,8. Mais là encore, beaucoup de débats, et on profite, et il faut le noter, d'une belle croissance en France grâce aux JO. Mais malheureusement, c'est que du temporaire. Et donc, dans ce contexte-là, la BCE, elle va baisser les taux, elle va les baisser de manière beaucoup plus agressive que la Fed. On anticipe entre 5 et 6 baisses de taux entre maintenant et juin 2025. Ça me semble assez cohérent. Et donc, ça va dans le sens, par rapport à notre discussion, d'un dollar fort vis-à-vis de l'euro, puisqu'on a déjà un rendement plus attractif qui devrait s'amplifier. Et la BCE est obligée de faire ça parce qu'elle constate que son que l'activité ralentit. Alors même si la croissance n'est pas catastrophique, le PMI, qui est un indicateur avancé, il est à 50, le PMI composite. Et il était bien plus élevé en début 2024 et on a eu une tendance vraiment à un ralentissement. Et des Allemands, il faut quand même le noter, qui ne nous sauvent pas. Ils nous ont beaucoup aidés pendant des années au niveau de la zone euro. Là, c'est plutôt un boulet qui a beaucoup de mal à rebondir. Donc voilà, du côté de la zone euro, j'ai envie de dire des inquiétudes. Pas beaucoup de visibilité à la fois au niveau de l'activité et de l'inflation, et forcément bah, des entreprises qui sont moins attractives au niveau mondial, même si, et c'est peut-être le point positif, la croissance des bénéfices est un peu meilleure sur le dernier trimestre que au cours des trimestres précédents. Donc là-dessus, un point positif, mais qui n'est pas suffisant, et on le voit, le différentiel de performance entre les actions américaines et les actions européennes est extrêmement puissant aujourd'hui. Le CAC 40, d'ailleurs, pour nos auditeurs qui le suivent, bah, est négatif depuis le début de l'année, ce qui est quand même assez extraordinaire quand vous avez un S&P à plus de 25 et un CAC à moins 5. Alors, il peut y avoir des retours à la moyenne, des élastiques tendus, mais sur le fond, on a l'impression qu'on est dans deux mondes quand même qui sont de moins en moins proches. Du côté de la Chine, en un mot, bah, beaucoup d'annonces, et il y a vraiment une prise en compte aujourd'hui, ce qu'on n'a jamais vu. J'ai envie de dire, même les plans de relance en 2015 n'avaient pas cette, ou 2008, 2009 n'avaient pas cette puissance-là. On a de l'immobilier, on a du monétaire, du budgétaire, du financier. Donc clairement, la Chine prend un peu en main son problème. Alors peut-être pas avec la taille qu'anticipait le marché, mais en tout cas vraiment, il y a un changement de paradigme du côté des autorités chinoises qui me semble extrêmement intéressante. D'ailleurs, il y a eu une réaction, on l'a vu, assez puissante des actions chinoises qui ont rebondi de 30 à 40%. Alors ça s'est dégonflé un petit peu, on a perdu une quinzaine de pourcents depuis, mais c'est quand même assez impressionnant. Et j'ai envie de dire, le malheur de la Chine, c'est l'élection de Donald Trump. Parce que toute cette politique-là, aujourd'hui, elle va être contrebalancée par un Donald Trump qui, si il applique réellement ce qu'il annonce, donc c'est-à-dire des taxes qui seraient de 50, voire 60, voire 100, il a même cité ce chiffre-là à un moment donné,
Il a même cité 200 à un moment donné.
200, tout à fait, oui, sur certains produits, tout à fait. Bon, après, on peut plus s'arrêter, quoi. 300, 400. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les Américains n'importent plus autant de la Chine que dans le passé, hein. On voit, le pourcentage des importations venant de la Chine, c'est élevé, mais pas aussi élevé que ça. Après, il y a beaucoup de techniques, en effet. On passe par le Mexique, on passe par le Vietnam, on passe par d'autres endroits pour éviter ces taxes. Mais voilà, la Chine, clairement, va pas profiter de l'élection de Donald Trump dans un premier temps. Il y a néanmoins un scénario hein, qui apparaît dans le marché. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais Donald Trump est un homme de transactions. Et donc, on pourrait aussi imaginer que les Chinois, finalement, alors contrairement à ce qu'ils ont fait en 2016-2020, il y a eu des grandes annonces, jamais rien derrière n'a suivi. Mais peut-être, finalement, Donald Trump pourrait s'accommoder d'une victoire au moins symbolique vis-à-vis de la Chine. Donc ça, c'est à suivre. Mais à très court terme, l'économie chinoise, voilà, on a deux forces en présence qui sont très puissantes. D'un côté, un plan de relance historique, et de l'autre côté, une arrivée de Donald Trump qui clairement a la Chine dans le viseur. Et là, pour le coup, il y a un consensus démocrate-républicain pour taper sur les Chinois, enfin sur les autorités chinoises et sur l'économie chinoise. Et donc, il n'y aura pas de contre-pouvoir vraiment là-dessus. Alors dans ce monde-là, nous, notre allocation aujourd'hui, elle est bah, plutôt favorable aux actions américaines. Hein. Il faut considérer que sur 2025, je ne vois pas dans quel contexte les actions américaines pourraient vraiment fortement sous-performer. Alors certes, il y a des rebonds techniques dans certains moments, mais j'ai envie de dire à moyen terme, la productivité, elle est aux États-Unis, la croissance, elle sera aux États-Unis, la qualité des entreprises, elle est aux États-Unis, et il y a un Donald Trump qui veut clairement mettre les États-Unis au centre du jeu. Alors les valorisations sont élevées, c'est pour ça qu'en absolu, je ne considère pas qu'il faut être surexposé actions à l'instant T. Mais par contre, voilà, dans une construction géographique, les actions américaines reprennent vraiment de l'intérêt et dans une logique, pour le coup, j'ai envie de dire, à horizon du plan au moins 2 ans, c'est-à-dire au moins lorsque Donald Trump aura les pleins pouvoirs. Un petit mot sur les small caps américaines. C'est un peu, alors il y a les small caps européennes, c'est toujours très compliqué. Les small caps américaines ont bien réagi à l'élection de Donald Trump, et c'est vrai que s'il applique réellement ce programme-là, bah, finalement, les actions américaines avec les small caps bah, pourraient en profiter. Donc un petit call, j'ai envie de dire, un petit pari action small cap américaine sur les prochains mois, un peu contrariant pour le coup, parce que finalement, vous avez un niveau de valorisation qui est assez attractif, et puis surtout, une capacité de faire des résultats qui devraient être assez assez sympathique dans les prochains trimestres. Donc voilà, c'est vraiment un pari un peu contrariant, puisque les actions, les small cap américaines sous-performent comme depuis des mois et des mois, et que les large cap, on les a tous en tête, ont très bien fonctionné. Mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à suivre. Du côté des devises, j'ai noté un toujours positif dollar. Donc si vous achetez des actions américaines, gardez le change. Hein, je pense que c'est plutôt une bonne idée d'avoir ce positionnement-là. Donc je suis assez consensuel, en tout cas vis-à-vis du positionnement de Bernard là-dessus. Et sur les taux, alors les taux souverains, pas vraiment de certitude aujourd'hui, beaucoup à mon sens, un peu de volatilité et pas de tendance très claire. Par contre, une vision beaucoup plus constructive sur le crédit. Je trouve que le crédit, en particulier les zones euro, que ce soit le high yield ou les subordonnés, on n'est pas dans un scénario catastrophe en termes d'activité. On garde du rendement, en particulier tout ce qui est subordonné bancaire où il y a vraiment encore du spread à gagner. Et de l'autre côté, bah voilà, on a des taux monétaires qui vont continuer à baisser. Donc tous les personnes qui s'étaient placées sur du monétaire parce qu'ils étaient rémunérés à raison à 4%, quand on va être à 3 voire à 2, bon voilà, du crédit avec un peu de spread, même si c'est pas des spreads historiques, peut retrouver de la valeur. Donc voilà, dans une construction de portefeuille, je considère que le crédit zone euro plutôt high beta, donc subordonné ou high yield, a de la valeur dans un portefeuille. Donc c'est de la manière dont nous on positionne nos fonds d'allocation aujourd'hui.
Ok, super. Alors, moi j'ai une question quand même, parce que justement tu as dit peut-être faire un pari, un call sur les small cap américaines. Est-ce qu'il y aurait pas un pari à faire sur le CAC? Parce que quand on regarde ce CAC, en fin de compte, les valeurs qui le font monter ou les valeurs qui le font baisser sont des grandes valeurs mondiales. C'est-à-dire que ce que disait Bruno tout à l'heure, mais bon, Saint-Gobain, c'est pas l'économie française qui fait monter Saint-Gobain ou qui fait baisser Saint-Gobain. Pour le luxe, c'est la même chose. Pour Total, c'est la même chose. Total fait plus de business en dehors de France qu'en France. Et on a ce CAC qui, pour des raisons, alors, il y a eu la raison politique de la dissolution, mais il y a aussi le luxe qui est pour beaucoup et qui a fait baisser le CAC. Bon, ces choses-là, elles vont se stabiliser. Donc, c'est vrai que les gens ont acheté moins de luxe parce qu'ils avaient moins de sous. Et ça, quand je dis les gens, c'est des gens au niveau mondial. Mais on ne leur a pas enlevé leur envie de luxe. Hein. Dès qu'ils auront un peu de sous, ils vont venir acheter du luxe. Ces entreprises, et on voit bien si on suit un petit peu LVMH, tous les 15 jours, ils nous annoncent le licenciement de quelqu'un. Donc, un tel est dehors, un tel est changé, un tel est repris. Donc, on voit bien que ce sont des vraies entreprises qui sont en train de se mettre en ordre de bataille et qui cherchent des gains de production et qui cherchent des économies pour améliorer les choses. On est très inférieur à l'Amérique, on est très inférieur aux autres pays d'Europe. Est-ce qu'on ne pourrait pas bénéficier d'un petit rebond et donc tenter un espèce de call CAC 40 ou de revenir, alors qu'en fin de compte, quasiment plus personne d'entre nous n'est sur le CAC, hein, on est tous sur des indices européens. Mais de revenir exclusivement sur le CAC en disant on va se prendre quelques points de hausse, même si ce n'est pas de hausse, mais en tout cas de différence positive avec les autres indices européens dans les 6 mois à venir.
Oui, clairement, je suis favorable à cette idée-là. Moi, je vous dirais pas du tout la même chose si vous me disiez ce qu'on appelle un long CAC short S&P, par exemple. Ça me semble pas une bonne idée. Par contre, un long CAC contre un panier qui serait constitué de DAX, de MIB et d'actions espagnoles, l'IBEX, bon, bah, globalement, ça me paraîtrait quelque chose d'intéressant parce qu'il y a une valorisation qui est très défavorable aujourd'hui à la France pour des raisons. À la fois, il faut pas surestimer l'aspect politique interne, hein, c'est-à-dire que les investisseurs sont pas extrêmement inquiets, on le voit d'ailleurs sur l'OAT, hein, s'il y avait vraiment un sujet, l'OAT serait pas à ce niveau-là en relatif du Bund ou du taux italien. Par contre, j'aurais juste un point, c'est le catalyseur de ce retournement. Voilà, vous avez cité LVMH qui est quand même un poids extrêmement important. LVMH a quand même besoin aujourd'hui qu'il y ait un retour d'appétit de la part des investisseurs. Et je pense en particulier en Asie, que ce soit en Chine ou au Japon pour les produits LVMH où on voit qu'il y a eu quand même un petit peu de raté. Alors c'est vrai que c'est plutôt une entreprise qui a c'est pas plutôt, c'est un excellent track record historique et on a l'impression que Bernard Arnault est en train de faire le ménage à droite à gauche pour remettre l'entreprise dans le bon sens. Mais voilà, c'est le seul élément que je dirais. C'est-à-dire, soit on joue vraiment de manière tactique en disant le spread, l'écart entre les actions françaises et le reste des actions de la zone euro ou de l'Europe d'ailleurs. inclure les Anglais et les Suisses dans le raisonnement, est un peu trop tendu et dans ces cas-là, bah, jouons un rebond, mais que ça a vraiment plus un rebond technique. Soit on se dit, bon, pour le coup, il y a peut-être aussi des fondamentaux qui sont un peu plus favorables aujourd'hui pour les actions françaises. Je pense notamment aussi au différentiel sur les banques, hein, c'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un poids des banques dans certains indices pays, type Italie ou Espagne, qui est très beaucoup plus important qu'en France, où là, pour le coup, on est plutôt luxe et énergie. Donc, il y a des dynamiques sectorielles qui peuvent être intéressantes à jouer. Mais alors, dans ces cas-là, pour les jouer, je pense qu'il faut avoir une vision un peu plus moyen terme sur cet écart-là. Et ça viendra, de mon point de vue, d'une meilleure visibilité sur ce qui se passe en Chine. C'est-à-dire que si vraiment la Chine arrive à délivrer un petit peu ce qu'elle a envie de faire et ce qu'elle semble vers quoi s'engager, d'autant plus que les Chinois vont être d'autant plus susceptibles de discuter avec les Européens si Donald Trump est particulièrement agressif à ce moment-là, et donc d'accepter un peu plus d'importations venant de l'Europe, à ce moment-là, bah, on sera des grands gagnants en France. Les entreprises françaises, en tout cas, seront des grands
Je
gagnants,
vais
et ça.
m'arrêter là parce que là, c'est extrêmement dense et je voulais que Maël
Ah non.
rebondisse sur ce que vous avez vu, mais il n'arrête pas de noter Maël, mais là, il a une dizaine de points sur lesquels il va déjà devoir rebondir. Donc, Maël, on essaye de condenser quelque chose. Bon, il y a des points de convergence avec l'édito, il y a quelques points de divergence, il y a des idées un peu différentes qui ont été mises. Alors, votre point de vue sur ce que Syriac a dit, vos divergences avec lui sur la vision future et probablement aussi vos convergences.
Bon, Syriac, vous avez beaucoup parlé, alors je ne sais pas si j'ai parlé.
Je m'excuse.
Je ne vais pas me rappeler de tous les points. Disons que on va commencer par la fin. Le fait que la Chine soit plus ouverte à travailler, à collaborer plus avec les pays européens. Bah, j'espère, mais je n'en suis pas convaincu. Moi, ce qui me fait peur, pour être tout à fait honnête, c'est qu'en général, l'Europe, on s'en est toujours bien sorti parce qu'on était tiré par nos deux locomotives, la France et l'Allemagne. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que les deux locomotives, elles ne vont pas bien du tout. Donc, aussi bien la France que l'Allemagne, ça ne va pas du tout. Et j'ai un peu de mal à les voir s'opposer à l'Europe, finalement, à von der Leyen. C'est elle qui va avoir les coups des franges pour faire ce qu'elle veut. Je ne suis pas persuadé que ça soit la bonne personne au bon poste, pour moi, en tout cas, pour servir l'Europe. Et donc c'est ce qui me fait un petit peu peur pour lutter contre finalement le potentiel concurrent géant américain. Ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit plein de choses intéressantes, mais il y en a une que j'ai bien notée, c'est que bon, les États-Unis sont à plus 25 depuis le début de l'année et nous on est négatif sur le CAC 40. Est-ce qu'il faut retourner sur le CAC 40 et jouer finalement l'indice français? Alors là, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Moi, à titre personnel, j'ai acheté des actions luxe. Donc moi je suis persuadé que c'est un investissement long terme et que dans la durée, elles vont revenir sur le devant de la scène. Elles ont performé depuis 10-15 ans en France, je suis peut-être un peu loin, mais au moins 10 ans en France, je suis persuadé que ces grosses capitalisations, elles vont continuer à performer. Quels sont les autres points, Bernard? Aidez-moi.
Alors, les autres, enfin, il y avait un énorme focus sur la Chine et la relance intérieure de la Chine. Enfin, c'est-à-dire que la Chine va croître avec sa relance intérieure et va avoir des ennuis avec les hausses de droits de douane américains. Et c'est là-dessus, est-ce que la balance va être positive pour la Chine ou est-ce que la balance va être négative pour la Chine?
Alors, ils ne sont pas en forme, hein, les Chinois. L'immobilier, ça ne va pas. Les marchés financiers, ça ne va pas. Les exportations, ça ne va pas. Le seul secteur, j'ai l'impression, qui cartonne, c'est la voiture électrique. Et là, ils vont avoir un gros coup d'arrêt, puisque l'Europe, on va les taxer monumentalement. Les Américains vont faire de même. Donc, leur premier débouché, en tout cas, va se tarir. Ce que l'on voit, c'est qu'ils sont en train de créer un nouveau bloc, qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous. Ils se rapprochent des Russes, des Indiens, des Coréens. Donc, il va y avoir ce nouveau bloc avec une population monstrueuse, hein, et ça va être 10 fois plus que les autres. Et je pense qu'ils vont capitaliser là-dessus pour se développer. Est-ce que nous, on va être isolés de ce fait? C'est sûr que c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les Européens également.
Alors là, je suis d'accord avec lui, hein, avec vous. Hein. On est beaucoup plus sur un univers politique qu'un univers économique, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'on trouve des choses si on veut exister. C'est sûr et certain qu'il va falloir qu'on trouve des choses si on veut exister. Alors, ce bloc dont vous parlez avec l'Inde et la Chine, ce n'est pas des copains, ce ne sera
Non?
jamais des copains et ça n'a jamais été. Donc ça, il faut bien le comprendre. Ils peuvent avoir intérêt à avoir un bloc ensemble pour avoir un univers de marché ou surtout sur un univers plutôt fiduciaire, d'essayer de trouver une monnaie qui pourrait un jour contrebalancer le dollar. Bon, ça, c'est possible. Mais c'est vraiment pas des copains. C'est tous les deux des peuples ultra-nationalistes, ultra-ultra-nationalistes, donc où ils pensent qu'ils sont vraiment supérieurs aux autres, qu'ils ont une âme, qu'ils ont quelque chose de mieux. Et voilà. En revanche, sur la voiture chinoise, et c'est là-dessus qu'on va terminer avant de passer au sujet d'après, j'ai presque l'impression qu'on revit la voiture japonaise. C'est-à-dire que quand on parle avec les spécialistes de l'automobile, ce n'est pas la voiture chinoise comme les piles chinoises d'il y a 20 ans, où vous prenez trois photos avec l'appareil photo et elles partent à la poubelle et il faut en remettre. Il semblerait qu'elles soient de très très bonne qualité, qu'elles soient d'aussi bonne qualité que les autres électriques, si ce n'est de meilleure qualité, que l'implantation en France, enfin l'implantation en Europe et dans le monde se fait avec des réseaux, que les prix sont imbattables. Alors aujourd'hui, les prix sont ultra imbattables parce qu'il y a de la subvention déguisée et parce qu'ils trichent, mais quand bien même ils enlèveraient ce morceau de subvention déguisée, les prix seraient aussi ultra imbattables et on n'est pas capable de produire ce type de qualité à ce prix-là. Ils reviennent un petit peu avec le secret, enfin ce qui a fait la fortune des Japonais, elles sont full option, donc il n'y a pas d'option dans ces chinoises électriques, tout est inclus dedans. Donc là, je me dis on va pouvoir bien les secouer avec les taxes, mais ça durera qu'un temps et après, il faudra revenir à quelque chose de plus raisonnable. Et ça peut être la voiture de demain, cette voiture électrique chinoise.
Bah là, ils les font venir de Chine aujourd'hui, mais demain, pour pouvoir continuer à les vendre sans taxes, ils vont être obligés de les produire en Europe. Alors, certes, ils vont
Comme ont
arriver à.
fait les Japonais, exactement comme ont fait les Japonais.
Ouais, mais vous allez voir que les prix mécaniquement vont monter. Et moi, je suis sûr qu'on va trouver un moyen de les taxer. Hein. En Europe, on sait bien faire ça, donc on va bien trouver un moyen de les taxer pour finalement les décourager.
Allez, Cyriaque, je vous laisse conclure en une minute sur la voiture japonaise, si vous avez une conclusion à faire. Et ensuite, ça sera au tour de Carole Mallet et de Julien Milinkevitch.
Merci. La voiture chinoise plutôt que japonaise, non?
Oui, la voiture chinoise, pardon. La voiture chinoise,
Je...
qui la voiture japonaise?
non, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, hein. Ça veut dire que les Chinois ont un peu cette approche-là d'arriver avec un rouleau compresseur. On l'a vu aussi quand même sur le solaire, hein. Il y a eu vraiment les panneaux solaires où ils ont vraiment écrasé toute la concurrence et détruit toute l'industrie. Je pense que justement, il y a un effet d'apprentissage et je serais peut-être un peu plus optimiste que vous sur la capacité de l'Europe, en tout cas de la zone euro, à se défendre, à prendre en compte cette nouvelle réalité. On le voit d'ailleurs sur les taxes qui ont été mises en place. Voilà, maintenant, la vraie réponse, j'ai envie de dire, ça sera certes du côté chinois peut-être de construire directement en Europe, en zone euro, un peu ce que demande Donald Trump, mais version Europe. Et la vraie réponse, ça serait qu'on ait des constructeurs européens qui allient à la fois cette qualité en termes de prix et cette qualité du produit, parce que c'est ça la grosse différence, c'est que le Made in China aujourd'hui, c'est plus des produits bas de gamme et on est très très loin de ça. Il y a vraiment une qualité qui est assez impressionnante pour un prix tout à fait correct et ça s'explique aussi parce qu'il y a des subventions. Donc on est aussi on a raison de vouloir se défendre. Voilà, je terminerai là-dessus.
Super, mille merci. Allez, mille merci à vous tous pour cet échange extrêmement intéressant, extrêmement dense. On a dépassé notre temps, mais c'est pas grave. Ils sont habitués avec nous à la radio. Allez, c'est maintenant au tour de Carole Mallet, de Financial, et de Julien Milinkevitch, notre juriste favori, de faire le thème Andorre.
Oui,
Julien,
bonsoir
vous êtes
Bernard.
là.
Bonsoir
Bonjour
Bernard,
Bernard.
bonsoir Carole, bonsoir à
Bonjour.
tous. Effectivement, on va faire un peu le grand écart là. On a beaucoup parlé de la Chine dans la dernière partie de l'émission, enfin dans la dernière partie de la première partie, si je puis dire. Et là, on va s'intéresser à un tout petit pays, 90 000 habitants, aux confins de l'Espagne et de la France. C'est vrai que depuis quelques saisons qu'on réfléchit ensemble, Bernard, on a beaucoup parlé de délocalisation des personnes physiques dans des pays, on va dire,
plutôt connus qui ont eu cette réputation ou qui ont su jouer de cette réputation. On a parlé du Portugal, on a parlé de la Suisse ou même du Luxembourg. Et aujourd'hui, avec Carole, on voulait vous parler de la Principauté d'Andorre.
Super. Alors, on y
Alors,
va.
eh ben
Alors,
allons-y, allons-y.
déjà, on y va, on prend l'avion.
Oui, effectivement, si vous voulez aller en Andorre, vous pouvez aller en avion, vous pouvez aller en train. Si vous allez en Andorre, alors, simplement ensuite, vous savez, on en a beaucoup parlé avec Carole, et on en a déjà beaucoup parlé ensemble. La défiscalisation et la délocalisation pour des raisons fiscales, ce n'est pas tout. Vous avez raison de préciser que la principauté d'Andorre est assez enclavée, puisque si vous voulez venir en avion, vous devez ou atterrir à Toulouse ou atterrir à Barcelone, et les deux aéroports de Toulouse et de Barcelone sont distants à d'un petit peu plus de 2 heures de route de la principauté d'Andorre. Donc c'est un petit peu plus compliqué, entre guillemets, que d'autres destinations. Néanmoins, au niveau fiscal, ça vaut le coup, de vous installer en Andorre, Bernard, puisque vous n'aurez pas d'impôt sur les dividendes, vous n'aurez pas d'impôt sur la fortune, vous n'aurez pas de droit de succession en ligne directe. Vous aurez un impôt sur le revenu des personnes physiques qui est limité à 10% au-delà de 24 000 euros en tranche marginale d'imposition. Donc ça fait rêver versus les 45% côté français. Si vous constituez votre société en Andorre, vous aurez un taux d'IS à 10% et vous aurez aussi des charges patronales à 15, 5 et 6% côté salarial. On va dire charges sociales et patronales à une vingtaine de pourcents. Je vous laisse comparer à ce qui existe dans les autres pays de l'Union européenne. Et à noter, j'avoue, je ne le savais pas et je l'ai appris en préparant l'émission, que la Principauté d'Andorre est hors du système de TVA intracommunautaire de l'Union européenne. Donc, vous êtes soumis à une TVA à un taux extrêmement avantageux de 4,5. Donc, on va dire qu'en premier lieu, s'installer en Andorre pour des questions purement fiscales, ça peut valoir le coup, si je puis dire.
Allez, alors, juste pour rebondir, la TVA intracommunautaire ne s'applique pas parce que l'Andorre ne fait tout simplement pas partie de l'Union
Exactement,
européenne.
exactement. Donc ils ont un système de TVA système de TVA qui leur
En
sont propres, en
revanche,
moyenne à 4 ans.
l'Andorre devrait rejoindre l'Union européenne assez vite maintenant, donc soit de manière formelle, soit avec un accord global et complet. Comme la Suisse, Monaco et des choses comme
Tout
ça.
à fait, tout à fait, tout à fait. Il n'empêche que pour le reste, pour les impôts patrimoniaux, et il y a un certain nombre aussi d'avantages pour la constitution de sociétés holding en Andorre, vous pouvez tout à fait conserver votre entreprise en France et refaire monter vos dividendes dans une holding andorrane qui remontera à un régime Murphy extrêmement favorable et ensuite avoir une distribution de dividendes à zéro côté Andorre. Il n'empêche que d'une part, vous resterez toujours imposable côté français si vous êtes résident fiscal français, et puis la constitution d'une holding andorrane peut être également aussi vue comme un petit peu agressif vis-à-vis de notre chère administration fiscale, bien sûr.
D'accord. Alors là-dessus, il faut quand même se rappeler au règlement européen qui maintenant est actif. Si vous avez une holding dans un autre pays de l'Union européenne dans lequel vous ne résidez pas, si cette holding n'a pas, je crois, 3 ou 4 salariés au minimum, et si elle fait plus que 50% du chiffre d'affaires avec un autre pays européen, donc 50% de la remontée, si les remontées de la dividende, si les remontées de dividendes de votre société française, dans cet exemple-là, sont plus de 50%, vous pouvez avoir l'annulation des conventions fiscales. Donc,
Oui, tout à fait, on peut.
faut
Tout
faire
à fait,
très
c'est
très attention
les fameuses règles de substance. C'est les fameuses
aux
règles de
déplacements.
substance sur les sociétés holding, c'est-à-dire que, fût-ce une époque, vous ne pouvez plus constituer une holding andorrane ou à Luxembourg d'ailleurs, pouvait être peut-être avantageuse pour. Mais aujourd'hui, il faut une certaine substance dans votre holding. La société boîte aux lettres, qu'elle soit à Andorre ou à Luxembourg d'ailleurs, ça ne suffit plus. Et comme vous l'avez dit justement, sans rentrer dans les détails, il faut un certain nombre de salariés, un certain nombre de véritables activités et de présence économique sur place pour que l'administration fiscale de votre pays de résidence ne vous voie pas tout simplement votre holding en transparence et que vous ne soyez simplement imposé et que vous soyez imposable comme si vous n'aviez pas de société là-bas. Donc, je serais tenté de vous dire que pour le sujet Andorre, à considérer au niveau des personnes physiques, bien sûr, avec un certain nombre de points d'attention que Carole va nous évoquer, pour la structuration et l'installation en tant que société, vous avez raison, c'est beaucoup moins facile et beaucoup moins simple que ça l'était encore il y a quelques années.
Alors, quand on va s'installer en dehors, c'est compliqué de s'installer?
Non, c'est relativement simple. Où vous vous installez avec armes et bagages, avec votre famille, et là, vous faites jouer tout simplement la convention fiscale entre la France et l'Andorre. Donc, vous devenez résident fiscal andorran au regard de la France, si vous êtes français et que vous quittez la France. Ou vous vous installez en Andorre en tant que résident actif, si vous n'êtes pas dans un scope qui prévoit enfin, en tout cas, si les conditions ne sont pas déterminées par la convention de votre pays de départ, vous vous installez, vous exercez un travail en Andorre, vous y créez une entreprise, donc vous devenez résident actif en Andorre et vous devenez de ce fait résident fiscal, avec tous les avantages que j'ai évoqués tout à l'heure. Ou alors, vous pouvez également devenir en Andorre résident en tant que résident passif. Vous établissez votre lieu de vie pendant 90 jours seulement, mais surtout, vous engagez un capital en Andorre sous forme d'un dépôt bancaire, d'un achat d'un bien immobilier en Andorre, d'un investissement dans une société andorrane, le tout pour un minimum de 550 000 euros. Et dans cette hypothèse-là, vous devenez résident, vous pouvez obtenir la résidence fiscale andorrane. Il n'empêche, bien évidemment, toujours à prendre en compte que quand bien même vous êtes imposé en Andorre, ou en tout cas non imposé, par exemple sur les dividendes, si vous avez des dividendes de sources d'actions françaises, de sources d'actions suisses, de sources d'actions allemandes, vous aurez toujours une retenue à la source côté France, côté Suisse et côté Allemagne dans mon exemple. De même, quand bien même vous n'avez pas de droit de succession en Andorre, si vos enfants sont en France, du fait de l'absence de convention fiscale sur les successions entre la France et l'Andorre, vos enfants, au moment de votre décès, seront soumis au droit de succession français. Donc c'est toujours la même chose. Il y a le cadre de vie à voir, on en a parlé au départ. Effectivement, sur le papier, c'est très intéressant, mais attention à la structuration de votre patrimoine et à l'origine de vos revenus. Il y a toujours le pays qui distribue, qui peut avoir une retenue à la source. C'est la même chose sur l'immobilier, bien sûr, on parlait du financier. Attention également au décès. Dans certains pays, vous pouvez avoir la compétence du pays de résidence de l'héritier, bien sûr la France. On va dire qu'il y a, bien évidemment, un certain nombre de points d'intention civile dont Carole va nous parler.
Oui, moi je souhaitais attirer l'attention sur deux aspects civils. C'était sur les régimes matrimoniaux et les règles de dévolution successorale, parce qu'on pense toujours au fiscal, mais il y a des conséquences notamment sur le régime
Tout à
matrimonial.
fait.
Si on n'a pas de, si on est on se marie en France, qu'on n'a pas fait de contrat de mariage et que on part s'installer en Andorre à la suite de son mariage, on a une règle qui nous dit que le régime matrimonial sera celui où on va s'installer durablement, de façon stable, après son mariage. Donc là, par exemple, il faut savoir qu'en Andorre, le régime matrimonial légal, si on n'a rien fait, c'est la séparation des biens. Ce qui ne sera pas le cas avec la France. Donc du coup, il faut quand même penser, voilà, à réfléchir au régime matrimonial. Alors si on est marié depuis plus longtemps, enfin, il y a différentes règles qui peuvent s'appliquer selon si on est entre 92 et 2019, et ensuite après 2019, parce qu'il y a une situation assez cocasse pour tous ceux qui ont été mariés entre 92 et 2019, qui nous dit que effectivement, si on n'a pas fait de contrat de mariage ni choisi de loi applicable, ça va être la loi de la première résidence habituelle des époux. Mais on a une règle de mutabilité automatique du régime matrimonial après 10 ans de résidence dans un autre État. Donc, si on prend un exemple, un couple qui se marie en France, qui part pendant 5 ans s'installer en Angleterre, puis pendant 10 ans en Italie. Malheureusement, le couple se sépare. Ben là, on va avoir pour partie des règles anglaises et pour partie, après 10 ans, les 15 premières années, on aura les règles anglaises et ensuite on aura les règles italiennes. Donc pour éviter quand même tout ça, quand on a un peu la bougeotte et qu'on bouge de pays à d'autres dans le cadre de l'expatriation, il faut quand même s'intéresser à son régime matrimonial, notamment si on n'a pas fait de contrat de mariage ou choisi de loi applicable, parce qu'on pourrait avoir de surprises en cas de divorce dans un autre pays.
Alors,
Donc ça, c'est...
ça c'est très important et là il faut vraiment consulter quelqu'un avant de le faire parce que les enjeux peuvent être gigantesques. Donc il y a la défense des enjeux, mais surtout ce qui peut se passer, c'est encore plus embêtant, c'est que lors du décès, il peut se passer le contraire de ce que les époux avaient ensemble convenu.
Ah, oui, exactement. Et il y a eu un arrêt qui était assez intéressant où il y avait des époux donc, qui s'étaient mariés donc à l'étranger, qui sont venus s'installer en France et qui avaient, lors de donations en fait en France, mis qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté. Et en fait, il y a eu des cours de cassation, il y a eu des contentieux sur le sujet, et parce que le pays d'origine, c'était séparation. Et en fait, ils ont expliqué que peu importe ce qu'avaient exprimé les époux dans l'acte de donation, ils ont considéré que c'était pas suffisant. Et on est retourné au régime initial, en fait, par rapport à leur mariage, parce qu'ils n'avaient pas déménagé tout de suite après dans le cas, ils étaient venus en France plus tard. Et donc, du coup, enfin, c'est vraiment la loi applicable devant notaire, ça va pas être des faisceaux d'indices. Là, c'est vraiment quelque chose de très précis sur les régimes matrimoniaux. C'est pas, on démontre qu'on avait l'intention de. Donc, il faut vraiment se poser la question, effectivement, et aller voir un notaire. Pour soit faire un contrat de mariage, hein, parce que si on veut la communauté, on peut très bien aller faire un contrat de mariage pour dire je veux de la communauté, comme ça, peu importe où on va, ça sera la communauté. Qui dit contrat dit pas forcément toujours séparation de biens. Donc c'est important de choisir et son régime matrimonial et la loi applicable par rapport à ça.
Voilà, c'est d'autant plus important quand il y a des enfants de plusieurs lignes.
Voilà, ça complique, voilà, effectivement, ça complique encore plus, ouais, les choses. Donc ça, c'était par rapport au mariage et également aussi sur les règles civiles qui peuvent s'appliquer en cas d'ouverture de succession, là. Si on n'a rien prévu, par exemple, on part, nous, en France, aujourd'hui, on sait qu'on a des héritiers réservataires qui sont le conjoint survivant ou les enfants selon la situation, hein, si on a le conjoint qui peut être héritier réservataire si le couple n'a pas d'enfant. Et si il y a des enfants, les enfants sont des héritiers réservataires avec des quotes-parts qui sont définis en fonction du nombre d'enfants. Il faut savoir que en Andorre, pareil, il y a des règles d'héritier réservataire. On va utiliser le même mot, ce n'est pas les mêmes mots qu'ils utilisent en Andorre, mais ça veut dire la même chose. Mais il faut savoir que c'est seulement 25% qui est obligé de revenir aux enfants. Le reste est libre. Il y a une quotité disponible beaucoup plus importante en Andorre qu'en France. Donc, on pourrait avoir des surprises si on n'a pas réglé ce genre de questions avant son départ. Donc là, la question, c'est pas de combien on va payer, mais c'est qui va recevoir quoi. Donc, c'est vraiment quand même important de se poser la question, qui va recevoir quoi? Parce que là, quand on est français et qu'on part, on se dit, bon, c'est bon, les enfants sont protégés, enfin, ça va se passer comme ça. Et le conjoint aussi a des droits en France avec le droit au logement, voilà, l'option de l'usufruit sur la quotité disponible spéciale éventuellement. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont en place, qui sont bien ancrées en nous. On se dit, bah, ça va se passer comme ça. Mais voilà, quand on part ailleurs, c'est pas forcément les mêmes règles civiles qui vont s'appliquer. Et il faut savoir que c'est quand même souvent la règle civile du lieu de résidence si on n'a pas fait de démarches particulières. Donc, en tout cas, en Andorre, il est vraiment très important de faire un testament si on va s'installer là-bas pour bien choisir ce qu'on veut faire dans la dévolution de qui reçoit quoi dans le cas d'une succession. Et aujourd'hui, l'Andorre, comme vous le disiez tout à l'heure, ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, le règlement européen ne s'applique pas de facto par rapport à si on partait effectivement en Europe sur les règles civiles.
Alors, bon, ça, c'est. Donc là, on a bien détaillé les règles, mais tous les candidats à l'expatriation, c'est toujours mis au second plan ces règles civiles. Et ce qu'on peut rappeler, c'est qu'il faut vraiment, s'en occuper et vraiment regarder. D'abord, un accident, ça peut arriver même quand on est jeune. Un divorce, même si ce n'est pas un divorce par accident, ça peut aussi arriver. Et ça peut aussi être des aspirations légitimes d'un couple de ne plus vouloir continuer un chemin ensemble. Et voilà, donc quelles que soient les règles, c'est toujours mieux quand on doit se débattre dans des règles choisies que quand on doit se débattre dans des règles qu'on subit ou qu'on n'attendait pas du tout. Et quand il y a des enfants de plusieurs lignées, il y en a souvent une partie qui sont beaucoup plus jeunes que les autres. Ça peut arriver que ce soit équilibré, mais autrement, il y a souvent une partie qui est liée à des remariages, donc beaucoup plus jeunes que les autres. Et là aussi, il faut bien faire attention à qui on veut protéger, comment on veut protéger, dans quel ordre on veut protéger. Donc c'est vraiment quelque chose à faire. Je pense, comme vous, Carole, que le meilleur conseil, c'est d'aller voir un notaire sur place. Un notaire sur place, de bien se faire expliquer les choses, et ensuite d'aller faire un point plus global avec son notaire habituel du pays où on vient ou du pays où on s'est marié et d'arriver à faire les choses. Et ici, ce qu'on peut voir au Portugal, c'est que les gens ont une telle connaissance et une telle bonne connaissance de la loi locale qu'ils oublient souvent qu'il peut y avoir des interférences avec une loi qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont pas l'habitude de manipuler, tout particulièrement quand il y a des biens un peu différents que des biens classiques. Juste un exemple, le quasi-usufruit, ça n'existe pas au Portugal. Voilà. Et il y a beaucoup de pays dans le monde où ça n'existe pas.
Oui, alors là, l'Andorre, ils connaissent l'usufruit, quasi-usufruit, je pense pas qu'ils connaissent, mais par contre, ils ont cette notion, voilà, parce qu'on ne l'a pas non plus dans tous les pays, cette notion d'usufruit. Là, en Andorre, effectivement, ils connaissent cette notion, d'usufruit, mais effectivement, voilà, il y a des spécificités françaises qu'on pense qui se retrouvent partout, ce qui n'est pas le cas, et donc, effectivement, dès qu'on a tendance à s'installer dans un autre pays, il faut vraiment avoir le réflexe, comme vous l'avez dit, Bernard, c'est d'aller voir un notaire en local, de toujours garder aussi le notaire qu'on peut avoir en France pour harmoniser tout ça et que ça soit bien que tout soit bien comment dire, dans les deux pays, que ça soit reconnu dans les deux pays, en fait, les décisions qui seront prises.
C'est ça. Et toujours faire attention, on ne connaît pas la date de décès. Ça, tout le monde en a bien conscience, mais rappelez-vous qu'on ne connaît jamais non plus le lieu de décès. Et ça peut aussi influencer et ça peut aussi changer. Alors, pour en revenir à l'installation, on a où on est actif, c'est-à-dire qu'on va s'installer en dehors et on crée une société où on y est salarié, et là, on a un régime d'actif. Où on a un régime de passif, et donc là, le régime de passif, c'est parce qu'on est soit retraité, soit entre guillemets un capitaliste, et qu'on a une certaine somme. Donc, soit on fait un investissement avec cette somme de 550 000, qui est d'ailleurs, je crois, un peu plus importante, puisqu'il faut laisser une caution, non? Il y a une caution à
Oui, c'est
laisser à
ça,
l'État de
exact,
50 000 et il faut
exactement.
investir
Ouais, exactement, c'est
550 000.
une caution. Ouais, c'est 47 000, je crois, de mémoire, la
C'est
caution. Il y
ça.
a un investissement de 550 000, que vous pouvez laisser sous un dépôt bancaire,
C'est ça.
ou alors en achetant un bien immobilier en Andorre, ou alors un investissement dans une société andorrane où vous prenez une participation dans une société qui est immatriculée en Andorre. Et là, dans cette hypothèse-là, vous devenez résident fiscaux andorran.
Passif. Et donc là, on est tenu à 90 jours de résidence.
Exactement, vous établissez votre lieu de vie simplement pendant 90 jours sur place, ce qui est 3 mois, ce qui est quand même une durée relativement courte. Je dirais.
Est-ce que les Andorrans surveillent ces 90 jours? Est-ce que c'est inscrit dans le marbre et est-ce qu'ils surveillent?
Voilà, c'est un petit peu ce que j'allais vous dire. Je ne sais pas si vraiment, à l'image de ce qu'on peut connaître dans d'autres petits pays, suivez mon regard, s'il y a vraiment une surveillance. À l'image de ce qu'on peut trouver sur Monaco, par exemple, même si il paraît que les contrôles sont un peu plus pointus depuis quelque temps, je ne sais pas si vraiment on vérifie le lieu de résidence
Ben, en
effectif, ou
règle
en tout
générale,
cas.
non. La règle générale dans le monde, c'est non. Enfin,
Bien
dans le
sûr.
monde libre, on va dire. Dans le monde libre, personne ne surveille ses résidents.
Tout à
C'est-à-dire
fait,
que
tout à fait.
les ennuis peuvent plutôt venir, si vous êtes français, la France qui pourrait venir vous dire, vous ne passez pas 3 mois en Andorre et vous passez 6 mois ou 7 mois en France.
Tout
Mais
à fait, tout
c'est
à fait.
toujours cette notion un peu du voyageur fiscal. Si vous passez 3-4 mois en France, 3-4 mois, 3-4 mois en Espagne, 2 mois au Maroc, et que vous passez en réalité que 1 mois en Andorre, j'imagine mal le législateur andorrain venir vous voir et vous dire, Monsieur, vous n'êtes pas résident chez nous parce que vous n'avez pas passé 90 jours.
Ça
C'est
me
ça la
paraît
question.
compliqué, je suis de votre avis, oui, je suis de votre avis.
En règle générale, voilà, dans les pays libres, on ne surveille pas ses résidents. On
Le
surveille
pro.
plutôt le contraire, ceux qui
Le pro.
prétendent être non résidents et qui pourraient l'être. Et après, j'ai entendu dire qu'il y avait un troisième statut un peu spécifique à Andorre pour les nomades digitales.
Oui, peut-être, effectivement. Oui, j'ai, oui, tout à fait. Un statut sur les nomades digitales qui peuvent avoir droit aussi à un certain nombre d'avantages fiscaux. Je les ai plus en tête
Alors,
précisément.
qui ressemblerait au passif,
Ouais,
mais il
qui
n'y aurait
ressemble un
peut-être
petit
pas
peu à
cette
la résidence
obligation,
passive.
il y aurait peut-être pas cette obligation de dépôt de
Tout
600 000
à
balles.
fait. Ouais, tout à fait, exactement. C'est une, ils auront les mêmes avantages, mais ils ont des contraintes un petit peu plus légères.
Voilà. OK.
Après, je vous dirais pourquoi pas l'Andorran, effectivement. Je dois vous avouer qu'on avait assez peu de demandes jusqu'à il y a quelques mois. Et effectivement, face à un petit peu d'instabilité fiscale, le Portugal, bien sûr, mais le UK, le RND terminé, etc. Pourquoi pas réfléchir une installation en Andorre? C'est vrai que paradoxalement, on a eu quelques demandes et quelques points d'interrogation des clients sur les quelques derniers mois, alors que c'était, il ne faut pas dire le contraire, très rarement le cas jusqu'à peu. L'Andorre semble revenir un petit peu sous le scope de l'actualité fiscale pour les personnes physiques. Pourquoi pas?
Alors nous, ce qu'on voit beaucoup ici, donc c'est des gens qui, après les 10 ans, vont en Andorre, mais vivent plutôt entre l'Espagne et le Portugal en ayant un statut andorrain et pas mal d'amateurs de ski, puisque en Andorre, en hiver, on peut skier. Il neige et donc
Oui,
on peut
pourquoi pas.
skier.
Bon, ça reste quand même un pays très enclavé, hein, comme vous l'avez dit en introduction. Alors ensuite, c'est une question de goût et de couleur, mais voilà,
Mais
c'est quand
après,
même
les routes sont bonnes, hein. Donc,
très petit pays, pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. Mais
voilà,
effectivement, l'aspect
pour aller
fiscal.
à Toulouse, c'est 2 heures de route. Pour Barcelone, c'est 2 heures de route. Donc, ça se fait assez bien.
Ouais, c'est une
Et
position assez centrale, c'est vrai.
voilà. Donc, ce qu'il faudrait qu'on fasse comme prochaine émission, c'est on va faire la vie en Andorre, le système scolaire en Andorre. Est-ce qu'il y a des bonnes écoles? Est-ce qu'il y a des bons restaurants? Est-ce qu'il y a des bonnes boîtes de
Alors,
nuit? Est-ce qu'on s'amuse
très
bien? Alors, on
sérieusement,
y
il
aille
paraît
surtout.
ils ont un système éducatif, a priori, et un système médical, puisqu'en préparant l'émission, ils ont un système, a priori, qui se targue d'être parmi un des meilleurs d'Europe, si ce n'est du monde. Donc, effectivement, il y a l'attirance au niveau fiscal, il y a le cadre de vie au niveau de la santé, mais ils mettent également en avant la sécurité et en avant également le système éducatif et le système de santé, qui est vraiment de très, très haut niveau.
Super. Allez, c'est sur ce système de santé de très très haut niveau qu'on va se séparer. Merci beaucoup, Carole, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup,
Merci Bernard.
Julien. Et
Merci Bernard, merci Carole.
on se retrouve dans un mois avec un nouveau pays pour vous faire
L'Espagne, je
goûter.
crois. Je crois que ce sera l'Espagne. On passera les Pyrénées. On passera les
Ça
Pyrénées.
marche. À très bientôt. Bonne
À
semaine à
bientôt.
tous. Au
À
revoir.
bientôt. Bonne semaine. Au revoir. Bonne soirée.